Radio
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Et bienvenue à tous les auditeurs d'Okapi Service. Éruption du volcan en Nirangogo, comment se présente le plan des contingences, comment gérer cette catastrophe? Eh bien, on en parle dans cette émission Okapi Service avec plusieurs intervenants. C'est parti pour 2 heures d'émission sur ce thème. Notre premier invité est déjà là, Maître Rufin Luko Moussobao. Il est juriste et chercheur en droit. Maître, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Et vous avez écrit aussi certains ouvrages sur ce volcan, tout les volcans du Kivu, l'essentiel.
Les volcans du Kivu, l'essentiel.
Et ça, donc, ça a été publié en 2002.
En 2002, et ça se trouve sur Amazon.
Bien, nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission et la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matois qui est excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de l'éruption du volcan en Nirangogo le week-end dernier. Comment se présente le plan des contingences? Comment se gère cette catastrophe? Eh bien, panique généralisée le week-end dernier à Goma. Le volcan en Nirangogo est entré en éruption, occasionnant ainsi un mouvement massif de la population. Selon le porte-parole du gouvernement, le bilan provisoire fait état de 15 morts, dont 9 des suites d'un accident de circulation. 17 villages ont été touchés par la coulée des laves qui a détruit à son passage des habitations et des infrastructures. Certains déplacés ont déjà regagné leurs habitations, d'autres pas encore. Des tremblements des terres se sont accentués dans la région. Alors comment se présente le plan des contingences qui prend en compte le mécanisme d'alerte, le secours et la prévention des risques naturels? Maître Rufin Luko, vous êtes juriste et chercheur en droit. Vous avez écrit des ouvrages sur le volcan Nirangogo, l'essentiel, en 2002. Alors, commençons d'abord par retracer l'historique de ce volcan.
Tout à fait. Alors, d'abord, le volcan s'appelle Nirangogo. C'est le premier occidental européen qui l'a fait découvrir à l'Europe, parce que ce volcan-là, il a depuis des siècles, depuis des années. C'est le capitaine von Goten. Donc von Goten, c'était un Allemand qui a été envoyé comme explorateur, parce qu'à l'époque, les explorateurs, pour la plupart, soit étaient des militaires, soit étaient des journalistes. Mmh. Alors, il a découvert le volcan, le premier qu'il a escaladé. Et lorsqu'il a demandé aux autochtones quel était le nom de cette montagne, on lui a donné le nom qui a été publié dans la revue de l'Académie royale belge. C'était Kirunga Chaongo. Ou Kirunga Chagongo, c'est ce qui est écrit, que ce soit sur les net, et c'est dans la plupart. Kirunga Chagongo, c'est ce qui
veut dire
Virunga,
okay.
Virunga de Dieu, c'est-à-dire les montagnes de Dieu. Alors, et c'est de ces noms-là, Kirunga Chagongo, où est venu le nom de Nyiragongo. Parce que c'est-à-dire la montagne dédiée. Et c'est ainsi que toute la tradition de l'Est des pays, notamment du Kivu, de Nyiragongo et de Masisi, ont consisté à des sacrifices pour calmer la montagne, n'est-ce pas? La montagne des fées, ça veut dire Nyiragongo. Derrière Nyiragongo, il y a l'autre, qu'on est parvenu toujours, ce qu'on appelle la montagne indomptable, Nyamulagira, qui, elle, comme montagne, s'énervait, faisait des éruptions, presque, et d'ailleurs, ça n'a pas changé, presque toutes les deux années, Nyamulagira est en éruption. Heureusement pour la population du Nord Kivu et de Goma, Nyamulagira est en épanchement dans le parc. Donc, il y a la grande montagne qui est sur la tête de la ville de Goma et de Saki. Et de Saki, parce que ce sont les villes de Goma, Saki et Rubavu actuellement, qui étaient hier Gisenyi. La montagne Nyiragongo est à leur tête. Mais derrière, c'est tout Nyamulagira. Alors, Nyamulagira, c'est la montagne du diable. Donc, Nyamurairi, ce sont ces termes locaux, n'est-ce pas, pour clarifier la montagne du diable, celle qu'on ne dompte jamais. Et heureusement pour les populations, c'est de l'autre côté, donc c'est dans les parcs où chaque fois qu'elle s'énerve. Alors,
mais il semble qu'il y a une chaîne de montagnes là.
C'est ça, les Virunga.
Les Virunga.
Les Virunga, ça signifie la langue locale, c'est-à-dire les mortiers, tu vois les mortiers, qu'on appelle à Kinshasa
Eboka,
là où on pile les pondous. Voilà, c'est les noms que les Européens, donc les Allemands et les Belges, ont trouvé. Que les autochtones avaient donné à ces montagnes, c'est ces noms-là qui sont restés. Et il y a une chaîne d'environ 8 montagnes. Il y a les Karisimbi, il y a les Mikono, les Gaïga. Ces 8 montagnes ont été tous nommées par la population, mais ce sont des volcans, étaient sauf le 2, Nyiragongo. Alors on prononce Nyiragongo et Nyamulagira.
Mais ça, voilà, c'est chaque après 20, 22 ou 25 ans qu'il y a
c'est en principe, ou... c'est en principe ça. Mais non, ce n'est plus possible parce que déjà, c'est en 2002 que ça a emporté presque la moitié de la ville. Et aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en
2021.
Ça veut dire une dizaine d'années. Vous voyez? Et en 2002, avant, c'était... Il y a plusieurs éruptions, mais le plus dangereux, parce que c'est celui qui est à la tête de la ville de Goma, c'est le Nyiragongo. Et c'est elle, cette montagne, qui a encore déversé. Mais d'habitude, les laves quittaient le cratère principal.
Oui.
Maintenant, ici, ce sont des milliers de cratères qu'il a créés dans la ville.
Maintenant, donc, le feu sort de partout.
Sort des maisons des gens.
Des maisons
des gens. Des maisons déjà, des cimetières, donc de partout. Et c'est ça la dangerosité de la montagne, parce qu'il ne faut pas oublier que Goma s'appelle la ville volcanique. Toute cette ville a été, en quelque sorte, construite et planifié par les volcans. Donc, c'est le volcan qui l'a étendu. Donc, toute la plateforme sur laquelle est construite la ville, c'est du volcan. Nous qui sommes nés et grandis là-bas, nous avons...
Et on a appris qu'à une certaine époque, je crois, en 2002, le volcan, les larves sont allées jusqu'au niveau du lac Kivu.
Et ils ont créé là où il y a Serena Hotel. Serena Hotel, c'est un cadeau du ciel. Et donc, c'est le volcan qui a donné la parcelle. C'est le volcan qui a fait pousser le lac. C'est splendide. Hôtel, Serena Hotel, qui se trouve presque dans l'ensemble de ce qui était la résidence du feu président Mobutu à l'époque. C'est un bonus de l'éruption de 2002 qui a créé ça. Et toutes ces photos-là, je les ai produites dans ces livres-là, les volcans du Kivu, l'essentiel. Donc, les photos qui démontrent comment le volcan est entré dans le lac, il a poussé le lac, il a créé une parcelle et c'est là où se trouve le Serena Hotel aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est
maître Rue, enfin aujourd'hui le volcan n'est pas entré, Dieu merci, la ville
pas entré dans la ville.
N'a pas été touché.
Mais une partie a été touchée parce que on parle de Bouéné qui a été touché. Bouéné c'est une partie de la ville mais du territoire de Nyiragongo parce qu'il faut pas oublier que la ville de Goma avait des communes ou des territoires dans la ville, donc des communes. Comme c'est une ville urbaine, donc c'est une agglomération urbaine. Et il y avait Goma et Karisimbi. Maintenant, c'est relié avec les territoires voisins qui étaient Nyiragongo. Maintenant, c'est une seule ville.
On parle aussi de Majengo.
Majengo et Nyiragongo et Bouéné ont été touchés, n'est-ce pas, par. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on parle des morts, c'est entré dans la ville, mais pas directement comme l'éruption de 2002 qui a emporté presque l'essentiel. Parce que cette éruption a traversé de bout en bout toute la ville. En transformant en pierre tout ce qu'il raconte, parce que c'est ça la particularité du volcan, il transforme tout en pierre. Et la population de Goma est déjà habituée. Nous allons parler pourquoi des causes de ça, la panique, mais sinon, ceux qui sont nés et grandis là-bas savent que le volcan est là. Nous sommes nés avec, nous grandissons avec, nous jouons avec. Donc la vie des Gomatraciens, c'est la vie des habitats volcaniques. parce oui. que donc ils sont habitués à ça. Et on va dire pourquoi il y a eu panique et pourquoi il y a eu toute cette
improvisation. Il y a eu des morts même par accident. Les gens sont morts dans la panique.
Dans la panique, évidemment, c'est généralement la panique qui crée des dégâts. C'est comme aujourd'hui avec cette problématique des vaccins qui tient plus que le Covid lui-même. C'est-à-dire la panique tient plus que la menace. Alors pourquoi la panique? Parce qu'évidemment, nous allons en parler. Mais sinon, la panique a tué plus parce que la population n'a pas été prévenue. Ils rentraient de boulot vers 16h, 17h, 18h, 19h. Les gens rentraient encore et ils arrivent à la maison qu'il y a les volcans. Et ils ont vu parce que lorsque les volcans, on appelle la montagne de feu, ces volcans
le ciel était rougeâtre toute la nuit.
Donc c'était du feu partout. Donc vous voyez du feu devant vous. Et comme il y en avait assez, et c'est la nuit, donc ça dit 18h, 19h, 20h, et la population était la panique totale, les autorités n'avaient pas communiqué. Pourquoi les autorités n'avaient pas communiqué? Parce qu'il y a
environ 12 mois,
il y a l'installation de surveillance de l'OVG, de l'Observatoire volcanique de Goma,
oui.
Eh bien, ont été volés par des FDLR interam et consorts, tout ce qu'il faut.
Il y a plus de matériel
là-bas. Le Nyiragongo et le Nyiramugira sont dans le parc, comme la ville de Goma elle-même était dans le parc. Donc c'est l'extension de la ville qui a fait qu'on puisse repousser le parc. Nyiragongo et Nyamulagira sont des patrimoines du parc de Virunga. Ils sont dans le parc. Et tous ceux qui font les dégâts des massacres, des embuscades, ils sillonnent le Nyiragongo partout et ils ont pris tout, ils ont volé. Ils ont volé tout le matériel de l'observatoire, ce qui fait que ça fait plus de 12 mois, l'observatoire, oui. n'est-ce pas, n'avait plus d'observation. Et
d'accord.
C'est ainsi que ça s'est repris tout le monde.
Maître, je reviens à vous le temps d'accueillir le professeur Albert Kabasele. Il est physicien et expert en télédétection. Professeur Kabasele, bonjour.
Bonjour.
Professeur Kabasele, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission, professeur. Nous parlons aujourd'hui de l'éruption du volcan Nyiragongo, comment se présente le plan des contingences. Mais parlons d'abord de la surveillance. D'après vous, vous êtes expert en télédétection. Apparemment, tout le monde était pris des cours. Il n'y avait pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'alerte. Les gens n'étaient pas prévenus. Et puis, le mouvement des paniques était très intense dans la ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, ça fait partie de l'histoire, mais de l'histoire malheureuse, parce que si le pays est doté de l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, cet observatoire, c'est notre sentinelle pour tous les risques liés au volcan. Donc, cela montre que il y a quand même des choses à dire. Le dernier bulletin que j'ai reçu sur mon bureau à l'Institut géographique, provenant de l'OVG Goma, avait monté l'alerte au niveau jaune. Et c'est cette alerte du niveau jaune qui nous a amené à l'éruption constatée. Donc, je me demande si l'alerte devait être du niveau jaune au moment où on constatait cette éruption. Mais j'entends là des raisons qu'on est en train de donner par ceux qui travaillent. Je les salue d'ailleurs en passant. Et je viens souvent à l'OVG de Goma. Leur ancien DG, Kachua, docteur Kachua Karume, c'est un grand ami qui travaillait avec beaucoup de volcanologues de l'OVG de Goma. Et je connais leur dextérité, leur dévouement, mais en dehors de tout ça, il faut que l'État prenne part de responsabilité. Quand on manque l'Internet pour travailler, quand les fissures de Munigi, de Mugara, de Nyiragongo Sommet, ces fissures ne sont pas suivies à la lettre, on nous parle de 7 mois sans un suivi qu'il fallait, ainsi de suite, c'est que notre sentinelle, qui est l'OVG, dormait comme nous. Et l'OVG se réveille surpris aussi comme nous. Et c'est ça qui a créé la panique. Parce qu'on a demandé, qu'est-ce que l'OVG a dit? C'est l'alerte jaune.
Et l'alerte jaune veut dire quoi? Veut dire qu'il y a danger?
Il y a danger, mais il n'y a pas éruption.
L'alerte
jaune, moi je connais bien les alertes de l'OVG.
Oui.
Hein, c'est sous forme de bandelettes. Donc on vous met le blanc, c'est que tout va bien. Et le jaune, là, il y a danger, mais il n'y a pas éruption.
C'est les rouges, je pense que c'est les rouges.
Non, il faut que l'alerte monte en rouge.
Oui.
Et si l'alerte était rouge, si les radios en avaient parlé, si l'Internet avait été au point, ainsi de suite, je ne pense pas qu'on aurait enregistré ces 15 morts. De mon côté, en tant que physicien de télédétection, je ne maîtrise pas grand-chose de volcans, mais moi j'étudie des volcans par satellite. Nous avons reçu à l'UPN une thèse de doctorat d'un des collègues à l'OVG, donc un certain Simeon Bahaya de l'IST Bukavu, qui a beaucoup travaillé en prenant les données in situ que lui fournissait l'OVG de Goma. Et il nous a amené ces données en 2011-2012, nous les avons traitées et il a continué à accumuler des données de 2012-13-14 jusqu'à 2018.
Et donc, professeur données, Albert,
nous avons modélisé, on a trouvé que Nyiragongo s'est refroidi après l'éruption de 2002, il s'est refroidi jusqu'en 2010. Et après 2010, Nyiragongo a commencé à se réchauffer. Ça, ce sont les études qu'on a menées ici à l'UPEN, à l'école doctorale. Et après 2010, tout était possible parce que c'est la période d'activité du réchauffement. Avant 2010, jusqu'à 2002, après l'éruption, il était en refroidissement. Donc, aujourd'hui, nous n'avons qu'à regarder la périodicité. En 1941-42, il y avait éruption. Il y a eu éruption dans les années 70-71. Il y a eu éruption en 2002. Donc, c'est presque 25 à 30 ans. Une périodicité apériodique. On ne peut pas demander de déterminer par télédétection qu'on détermine le mois, l'année et l'heure. Non,
oui, aucun d'accord. Du monde professeur Albert, je reviens à vous tout à l'heure.
C'est l'objet qui devait faire cette alerte.
Oui, d'accord. On retient qu'il y a eu une défaillance du côté de l'OVG, si on peut le dire ainsi. On va accueillir le professeur Dadi Salé. Il est expert en développement. Professeur, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Bienvenue dans cette émission.
C'est un plaisir.
Alors, vous venez de Goma. D'ailleurs, vous êtes de Goma, mais les volcans, vous vous êtes retrouvé ici pendant que le volcan s'est déclenché là-bas à Goma. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un problème de communication au niveau de l'OVG? L'alerte n'a pas été donnée à temps, tel que le dit le professeur.
Oui, le professeur a tout à fait raison, mais il n'y a pas seulement eu qu'un problème de communication. Je pense qu'il y a eu un problème plutôt général de prévision. Je sais que le plan de contingence existe, mais avant même de continuer, j'aimerais quand même faire nos condoléances à toute la population congolaise. Et surtout à ces débuts de Nyiragongo et de Goma en général, parce qu'il y a eu des morts et il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de pillages et jusqu'à aujourd'hui, la situation reste confuse. Donc toutes nos condoléances et nous compatissons vraiment avec la population. Alors qu'à cela ne tienne, nous pensons effectivement que le plan de contingence a une certaine application a été là. Ça, il faut déjà féliciter le peu, parce que parfois quand on est à 20%, n'est-ce pas? Quand même, on a eu 20%.
Nous félicitons. Il y avait déjà un plan de contingence.
Oui, un plan de contingence existe. Et la communication même du gouvernement congolais, n'est-ce pas? C'était pour rappeler le plan de contingence, même s'il y a encore des réunions. Vous avez suivi les porte-parole du gouvernement. Mmh. Mais il existe déjà, depuis 2014, un plan de contingence qui était encore travaillé en 2018.
Qui prévoit les secours, oui. L'évacuation,
oui,
la prévention.
Et la communication, tout ce que les gens doivent prendre, par exemple, pour mieux se déplacer, parce qu'il ne faut pas fuir avec n'importe quoi. Certaines personnes fuient avec des choses trop lourdes, des matelas, oui. Des choses parfois impossibles.
Des valises.
Et, oui, et il y a un plan des directions. Est-ce que vous devez vous diriger à des milieux un peu élevés? Est-ce que vous devez vous diriger vers Gisenyi ou bien vers Sake? Donc, il y a eu des problèmes, certes, mais on félicite le 20% déjà. Parce que parfois, on ne parle que des choses négatives. Mmh. Le gouverneur a décrété quand il a été informé. On le félicite de toutes les façons. Mais nous avons un sérieux problème entre la volonté et les moyens. Donc, on constate, comme tout le monde là vient de le dire et constater, que l'OVD n'a pas communiqué. Absolument pas. On n'a pas changé d'alerte. Et on les comprend. Peut-être 7 mois d'impayés, pas d'internet.
Pas de matériel.
Pas de matériel. Oui. Et pourtant... Sauf erreur de ma part, c'est l'observatoire volcanologique, à moins que je ne m'abuse, qui devait être l'exemple au Congo et à l'Est. On n'en a pas deux, à ma connaissance.
Il n'y en a pas deux.
Donc je me pose des questions et les risques sont éminents. Tout le monde le sait. Alors gouverner, c'est prévoir. Je me pose souvent des questions. Que font les dirigeants, ça va, quand tout cela apparaît? Ça, c'est ma première grande question. Parce que nous sentons que l'OVD n'avait pas de moyens. Et n'a pas de moyens. L'OVG, je m'excuse. L'OVG n'avait pas de moyens. Elle n'a pas de moyens. Jusqu'aujourd'hui, là où nous vous parlons. Alors, le plan de contingence, comment ça va s'appliquer? Je vous donne un exemple. Ceux qui ont traversé pour Gisenyi ont été pris en charge au stade, les Congolais.
On parle de 7000 personnes qui sont allées vers le Rwanda.
Exactement. Donc, le minimum, c'est que au fond, ils sont allés au stade. Il y a eu, ils ont été pris en charge. C'était pas mauvais, selon mes informations. Mais maintenant, le problème se pose. Oui. Ceux qui se sont déplacés pour Sake. Jusque-là, c'est long. Toutes mes informations, et mes informations ne sont pas des WhatsApp, ce sont des gens directs, j'ai tout un réseau, n'est-ce pas? Ben, apparemment, on ne voit pas des prises en charge. Il n'y a pas vraiment des camps, des sites, n'est-ce pas, pour accueillir des gens.
Donc, ceux qui se sont dirigés vers Sake.
Vers Sake, effectivement. Donc, le plan de contingence, qui, on comprend, il y a eu des embouteillages terribles, il n'y avait pas des gens pour diriger les gens. Où est-ce que vous allez? Donc, certaines personnes sont allées naturellement vers de montagnes, Nyiragongo, vers des endroits un peu hautement placés. Mais on sent que la vulgarisation du plan de contingence, vous venez de me poser même la question, est-ce que ces plans de contingence existent? Je vous confirme que ça existe, mais qui n'a pas été vraiment vulgarisé.
Oui.
Les gens ne connaissent même pas. Mais il y a quand même une communication par rapport aux endroits. Comment, sur WhatsApp, comment est-ce que les gens pouvaient se diriger? Et on félicite, mais nous pensons que si on doit développer le pays, les moyens, quand on dit quelque chose, ça doit s'appliquer. On doit avoir les moyens.
Professeur, un instant, on va accueillir des auditeurs. Roger Kamaï de Kinshasa et Piero Pagna de Lubumbashi. Des questions et préoccupations composées le 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bien, nous parlons de l'éruption du volcan Nyiragongo. Comment se présente le plan des contingences? Roger Kamaï, vous êtes à Kinshasa, Piero Pagna, Lubumbashi. Roger Kamaï, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à nos invités.
Quelle est votre préoccupation?
Je dis, vous savez, une chose, dans notre pays, quand il y a quelque chose à se dire, ou c'est une erreur de la part d'une personne, il faut avoir le courage de se dire cela en face. Quand les invités ou l'invité nous parle de manque d'Internet, les matériels qui ont été volés, ou soit le parc qui est visé par le rebelle, les arriérés de salaire, vous pensez qu'on peut donner cette faute à qui? Cela incombe à notre gouvernement. Donc, il y a la légèreté de la part du gouvernement. Donc, il faut qu'on se dise les choses en face. Et la deuxième des choses, je peux vous affirmer que quand l'alerte donne jaune, ou soit la couleur jaune, et quelques mois après, on constate qu'il y a l'éruption volcanique. Donc c'est tout à fait, ça montre directement l'incapacité, ou soit le DG qui est inexpérimenté, qui n'a pas beaucoup d'expérience sur ça. Alors, de telles personnes qui vous donnent des rapports autres, et ce qui se fait autre, pourquoi garder de telles personnes? Moi, je pense que ce genre de personnes doivent être poursuivies par manque de compétences ou bien d'incompétences. Alors,
Nous tentons de joindre d'ailleurs M. Célestin Kasereka, qui est le directeur scientifique de l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, qui nous en dira un peu plus. Alors, vous avez une question rapidement?
Oui, la question est celle de savoir maintenant ce qui est arrivé actuellement. Qu'est-ce que le gouvernement pense faire? et les inviter s'ils sont en contact avec le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement pense faire?
Il y a une délégation du gouvernement qui doit, d'après le ministre, le porte-parole du gouvernement, il y a une délégation qui doit être déjà sur place. Il y a un numéro vert qui a été mis en place pour toute assistance. Voilà, c'est ce qui est déjà fait du côté du gouvernement. Nous allons accueillir Pierrot Pagna de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody, Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Pierrot?
Tout d'abord, je tiens à remercier la Radio Capi parce qu'elle nous a, directement pris ce sujet qui est à la une et nous compatissons ensemble avec ceux-là qui se sont déplacés et qui ont perdu des biens à Goma sur cette éruption volcanique. Alors, je voulais entrer d'abord sur ce que le premier invité nous a dit. Je voulais d'abord commencer par les féliciter parce que nous avons senti que c'est un scientifique et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur ces volcans-là. Alors, sur la situation démographique et géographique de ces contrées-là, là, je n'ai plus de questions à poser parce que je voulais poser des questions sur ça. Avec ce qu'il nous a dit, là, j'ai enlevé même mes questions sur ça. Alors, je voulais poser quelques questions sur ces éruptions-là.
Rapidement, Pierrot.
Oui, il y a eu encore ces éruptions, si je ne me trompe pas, en 2002. Alors, aujourd'hui, nous avons encore d'autres éruptions. Est-ce que sur ce continent africain ou sur le monde entier, y a-t-il combien de volcans et qui font des éruptions? Et s'il y a des volcans qui font des éruptions, est-ce que nous pouvons imiter ou pour éviter des dégâts dans la ville de Goma? Parce que c'est un volcan qui n'est pas loin de la ville de Goma.
D'accord. Si on peut s'inspirer de ce que les autres ont fait pour gérer la catastrophe. Merci. On va donner la parole à Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour Platini.
Jordi, bonjour. Merci pour l'invitation.
Quelle est votre question rapidement?
Voilà, merci beaucoup Jordi. Je pense que ça m'a fait vraiment mal au cœur d'avoir cette catastrophe au niveau de l'Est du pays. Alors moi, je justement, si l'invité peut nous aider, hein, quand il faut faire vraiment pour arrêter que cette façon-là de volcan là a fait aujourd'hui qui a fait disparaître aussi le vie des hommes là-bas au sud du pays. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter cette hémorragie dans les prochains jours? Et aussi la deuxième question que j'ai suivie ce matin, que le ministre des transports a suspendu puis sur le voie aérienne là-bas s'est étendu. Et maintenant les retombées, ça va amener à quoi au niveau de cette partie de l'Est? Là, voilà tout aujourd'hui ce que je peux avoir l'idée par rapport à mes petites questions.
Merci. Maître Rufin Moussoubao.
Merci. Bon, il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser les volcans.
Le volcan.
Bon, il est là, il est là même avant nous, hein, donc avant nous, ça veut dire la population congolaise. Mm. Ce volcan-là, pour mettre la population à l'abri, il faut l'observatoire avec des matériels. Il faut seulement observer parce que je parle des populations du Kivu qui sont nées et grandies là-bas. Il est impossible de déplacer ces gens-là. Il est impossible. D'ailleurs, les coûts étaient énormes. Parce que je me rappelle, à l'époque coloniale, l'idée était que la capitale de la province soit déplacée dans les parcs, n'est-ce pas, à Rutshuru, Kiwanja, c'était le site. Et même l'aéroport de Goma devait être bâti là-bas, construit là-bas. Mais ça n'a pas été, parce que non seulement les coûts sont difficiles, mais la population en Afrique, la population est attachée au sol. Déplacer une population, c'est pas comme à Paris
ou
en Belgique.
Goma aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants.
Goma est aujourd'hui l'une des villes les plus propres d'Afrique centrale. L'une des villes, elle est plus propre que même des capitales. J'ai vu une interview de France 24 et de d'autres chaînes internationales. Donc Goma est presque aujourd'hui la deuxième ville du pays. En tout cas, à l'époque, c'était Kinshasa.
Des belles routes,
Kinshasa,
des belles
Lubumbashi. Maisons. Goma, c'est l'une des forces montantes du développement de notre pays. Donc Goma décidait de déplacer la ville de la côte du volcan. Cette autorité qu'il fera n'est pas encore née. Je crois qu'il n'est pas. Non seulement le coût est énorme, oui. Mais Goma c'est une capitale volcanique et c'est la capitale touristique de la RDC depuis l'époque coloniale. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que l'idée de sortir la population de là, c'est il faut seulement observer.
Renforcer les moyens de l'observatoire.
Parce que je me rappelle lorsqu'il y a eu l'éruption volcanique de 1977. j'étais à l'école primaire. Mobutu est venu nous visiter. Nous lui avons chanté une chanson qui est devenue mythique pour les gens de cette génération-là, donc qui étaient à l'école. Et que, bon,
vous étiez
pour
où, le à Goma?
Oui, j'étais à l'école primaire à Goma.
D'accord.
J'étais à l'école primaire et nous avons chanté une chanson à Swahili, le maréchal qui était venu nous visiter. Et c'est à l'époque où le maréchal, pour calmer la population, a installé la télévision pour la première fois dans une province au Zaïre. C'était à 77. C'était la première ville qui avait une télévision, donc Canal Sat à l'époque, pour desservir toute la ville. Et il n'y avait pas de télé parce qu'il y avait des noirs blancs à l'époque. C'était, donc c'est l'histoire, c'est une anecdote pour l'éruption de 1977.
Okay.
Et nous tous, si vous avez, on avait fui pour la plupart à Saki. Parce que la population de Goma estime que autant aller à 30 km qu'à 2 km à Gisenyi. Parce que, là, donc, contrairement à ce qu'il a dit, que nous, la quai était bien, nous sommes au courant des gens qui sont partis à Gisenyi. Ils sont rentrés le lendemain parce qu'ils ont estimé que c'est façon d'accueillir les gens.
Il semble que
même à 2002.
La frontière était fermée.
Était fermée. Avant. Donc, il y a eu.
Des négociations.
Difficilement que les gens ont traversé. Et ceux qui ont traversé, ce sont qui ont des résidences là-bas et qui, nombreux, ont des attaches au Rwanda. Donc, ça a été difficile. La population, la plupart, a fui. Il y a d'autres qui ont fui vers Sake et comme ils ne pouvaient pas arriver, il y avait des embouteillages, sont allés carrément se réfugier au pied du volcan. D'autres. Ils ont fui vers Sake.
D'autres voulaient traverser vers Bukavu. Il n'y avait plus de bateaux.
Et c'était la nuit. Les bateaux pour la. Bon, il y a des bateaux qui partent à 16h, 17h. Il n'y a pas de bateaux souvent à 18h. Donc, les bateaux sont déjà partis à 16h, à 17h. Et qu'il n'y avait pas de bateaux. Donc, du côté évacuation pour Bukavu, ça n'a pas marché.
Et pour les bateaux, c'est très dangereux.
Le plan de contingence.
Oui.
Évidemment, vous n'allez. Parce que là, c'est sans billets, sans manifeste. Donc,
tout le monde va chercher à prendre place à bord.
À prendre place à bord.
Il y a risque de naufrage.
Alors, et surtout lorsque ce n'est pas. N'oubliez pas que ça arrive. Comme en 2002, c'était à rébellion. Actuellement, c'est en état de siège. Donc, c'est presque la même configuration où les rebelles de 2002 ont pris la poudre d'escampette sans informer personne. Et non, vous restez, nous allons neutraliser, nous allons maîtriser le volcan. Ils sont partis, ils ont laissé la population sauf qui paie.
Alors, Maître Pierrot de Lubumbashi dit, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que les autres, la manière dont les autres gèrent les volcans chez eux?
D'abord, en Afrique, il n'y a pas plusieurs volcans. En Afrique, le plus grand volcan actif en Afrique, c'est Nyamuragira. Et Nyamuragira est le numéro 1 en Afrique. Nyiragongo, le numéro 1 d'activité dans le volcan, le plus actif. Parmi les volcans les plus actifs du monde, Nyamuragira est parmi les 5 premiers. En Afrique, il est le premier. Nyiragongo, lui, est le premier volcan du monde avec un lac de lave permanent. Un lac de lave permanent, c'est comment on l'appelle. Alors, donc, son observation est d'ailleurs aisée parce qu'il a toujours de lave. Et chaque fois, ce volcan-là, il n'a jamais fait éruption sans prévenir la population. Nous avons plus de 100 ans d'observation de nos populations d'abord, parce qu'avant que les Belges arrivent, les populations du Kivu, et en particulier de Goma, Masisi et Nyiragongo, les Hunde et les Kumu, ont une tradition d'observation de ces volcans-là. On savait, par des moyens traditionnels, que ces volcans vont faire éruption, parce qu'ils donnaient toujours des signaux.
Des signaux. Ouais.
Donc, l'observation moderne a commencé dans les années 70 et 80, mais l'observation traditionnelle, c'est depuis Belirette.
Depuis toujours, oui.
Donc la population, nous avons toujours été prévenus que ça. C'est parce que lorsque les autorités nous distraient par des chansons, des danses et consorts, alors là, nous ne sommes plus attentifs aux signaux naturels et traditionnels. Ces volcans-là, avant qu'il y ait éruption, a toujours prévenu la population.
Professeur, il y a toujours des signaux. D'accord. Professeur Dadi Saleh, on a suivi tout à l'heure qu'il faut renforcer la surveillance. Donc il y a besoin de donner beaucoup plus de moyens à l'OVG.
Oui, naturellement, et c'est là où Maître ne m'a absolument pas compris. Ça ne veut pas dire que si on a accueilli quelques personnes au Rwanda qui ne sont pas rentrées, on les a bien accueillis, Maître. Il ne faut pas confondre des sujets. Ils ont été bien accueillis, il y a des preuves, et le matin, certains sont rentrés parce que tous les Congolais sont sceptiques. Ça n'a rien à voir et les sujets n'ont rien à voir. Donc, et beaucoup d'autres sont allés à Sake, ben, il n'y a pas eu des sites pour les accueillir. Et rien à faire, c'est tout à fait normal.
Et on a appris que certains ont passé la nuit dans leur véhicule sur la route des Sakés.
Ne confondre, s'il vous plaît, les sujets. Donc, alors, pour être un peu plus direct, il faudra qu'on comprenne que cette histoire des volcans, on doit vivre avec.
Professeur, c'est devant votre micro.
Ah, ok. On doit vivre avec. Et pour l'instant, il y a des conséquences économiques, n'est-ce pas, qui sont graves, mais j'aimerais signaler positives et négatives.
D'une façon négative, nous avons déjà le fait que, ben, écoutez, il y a détérioration du cycle économique. Mmh. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont perdu leur maison, leur champ, qui ont perdu leur bétail, et effectivement, ils deviennent un peu plus pauvres. Et d'autres ont perdu leur économie. Soit par le feu, parce qu'il y a eu des boutiques, de magasins qui ont été pillés, qui ont été qui ont brûlé, et donc c'est une catastrophe économique dans ce sens-là. Mmh. Mais on prend aussi un aspect positif à moyen et long terme, ce que ben il se fait que ça les gens ne peuvent pas écouter à l'instant, mais je suis obligé de le dire, c'est que ben les sols deviennent un peu plus fertiles, ça va. Et c'est le volcan qui fait en sorte que depuis un temps les sols du nord qui vont en général est fertile. Mmh. Comme on le sait, et les sols deviennent fertiles, et ça un peu plus d'enrichissement, et ça facilite exactement la production.
Mais donc, professeur, il semble que la route d'où qui approvisionne souvent Goma, je ne sais pas si c'est la route de Rutshuru,
oui, est coupée. Rutshuru est coupée. Ça, ça a été la première route qui a été rapidement coupée par le volcan. Mais ne vous en faites pas, les dégâts ne sont pas énormes. On pense que c'est facile de dégager rapidement, selon toutes nos informations. Donc, si le gouverneur décide avec la MONUSCO, comme il a demandé, les engins peuvent rapidement dégager cette route-là. Donc, ce n'est pas aussi terrible que ça, jusqu'à preuve du contraire. C'est une catastrophe, mais gérable facilement. Donc, je voulais souligner ce point-là pour que nous puissions comprendre que, à l'instant où nous parlons, il faut prendre que les gouvernements puissent prendre les choses en main. Je vois l'appel vers l'humanitaire, comment aider la population, mais je me dis, c'est d'abord le gouvernement. Il faudra que le gouvernement puisse mettre le maximum de paquets. On ne doit pas avoir l'esprit trop de demander. Même l'hélicoptère pour faire des saveilles, c'était l'hélicoptère de la MONUSCO. Alors, ouais. Où sont nos hélicoptères? Où sont les hélicoptères, effectivement, de l'armée ou bien du gouvernement? Donc, c'est cet esprit que j'appelle Kujitegemea. C'est prendre en charge qui m'énerve un peu. Et là, nous comptons plus sur les humanitaires. C'est-à-dire, effectivement, que nous faisons appel à OCHA, nous faisons appel à PAM et tous les restes. Mais je pense que le premier point, il faudra que le gouvernement puisse rassurer le peuple congolais avec le ministère des Affaires sociales, par exemple, n'est-ce pas? Et pour les urgences, qu'il y ait des moyens conséquents pour aider les Congolais qui sont en besoin. Et pour sensibiliser, encore une fois, puisque je vous dis, par exemple, à Bouenela, où nous vous parlons, on vient d'enregistrer un mort. Un mort, juste dans sa toilette, on a vérifié, juste asphyxié, comme on dit encore, voilà.
Asphyxié par le gaz.
Exactement.
Sauf que le volcan dégage l'odeur du soufre, et c'est très dangereux pour la santé.
Exactement, c'est très dangereux. Donc, c'est pas encore fini. Et j'ai suivi même certains spécialistes qui sont encore en train de dire, le gouverneur vous a demandé d'évacuer. Ok, et de ne pas retourner. Jusque-là, le gouverneur n'a pas encore donné l'ordre
de retourner.
Non, oui. C'est pas encore le cas. Donc, mais ben, vous avez compris, si le plan de contingence n'est pas suivi, c'est ce que je disais aux amis. Ben, les gens qui sont à Sake, ils sont en train de rentrer déjà, parce qu'effectivement, ils ne savent pas comment dormir, ils ne savent pas comment manger, et il n'y a pas assez d'accueil dans ce sens-là. Donc, ici, il faut que le gouvernement puisse prendre les choses à bras les corps et s'assumer. Le peuple de Goma qui a autant souffert, je précise encore une fois que Bouéné vient d'être victime, comme vous le savez, des tueries. Il n'y a pas longtemps. Mmh. C'est cette même partie où on n'a pas encore d'évaluation, peut-être plus de 1000 maisons. Il n'y a pas encore d'évaluation. Moi-même, je n'ai pas encore d'évaluation en tant que chercheur, parce que je ne dépends pas souvent, moi personnellement, des données de l'État congolais ni des ONG. Je fais mes propres recherches. Mais oui. On a au minimum 1000 maisons qui sont parties avec le volcan. Au niveau de Nyiragongo.
Le volcan actuel.
Oui, actuel.
1000 maisons.
Mais oui, les gens disent que non, c'est pas arrivé à Goma, alors on est content. Mais non, il y a énormément, je vous dis, on doit vérifier ces informations, mais à l'œil nu, selon mes enquêteurs, on risque d'avoir plus de 1000 maisons qui sont parties.
Parce que certains ont dit que les larves se sont dirigées vers le parc de Virunga,
ben
et
oui,
parfois ça prenait la direction du Rwanda.
La bonne partie. On a notre cartographie qui démontre à suffisance que les larves qui sont aller vers la ville de Goma, ils ont pris effectivement pas moins de 1000 maisons, c'est-à-dire que ces laves se sont arrêtées vers 12 km, si je ne m'abuse, de l'aéroport, n'est-ce pas, de Goma. Et là, c'est plein de maisons, déjà. Mais c'est un peu comme si les gens se disent, ok, comme ce n'est pas arrivé à Kinshasa, alors ça va. Non, ça ne va pas du tout. Il y a eu beaucoup de morts déjà, il y a beaucoup de pâturages perdus, et jusqu'à preuve du contraire, je viens de vous donner un autre mort il y a quelques minutes. Donc je pense
qu'il y a
mort
de
oui et effectivement
d'intoxication. Comment on peut dire
suffocation, voilà les mots maîtres, c'est totalement ça. Donc je pense qu'il y a un travail, on doit avoir la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement central. Je pense que effectivement le président lui-même devait y aller le plus rapidement possible, parce qu'on l'a vu, quand quelqu'un est mort par-ci par-là, il s'est déplacé. Cette fois-ci, je pense qu'il y aura pas de bonnes raisons.
Mais il y a déjà une délégation du gouvernement.
Non, pas la délégation, c'est ce qu'on comprend. Place. Une délégation, c'est très bien. Ici, nous voulons le premier ministre ou bien le président de la République. Ce sont le premier responsable. Pourquoi vous voulez les deuxième, troisième responsable, millième responsable pour des questions, parce qu'ils vont faire encore rapport. Vous me suivez? Là, je suis pragmatique. Non, quand le président descend et les premiers ministres, ils n'ont plus des rapports à faire à qui que ce soit. Ils prennent des décisions.
Ils vont directement. Oui.
C'est ça. Pas des gens qui vont faire encore des rapports, qui vont traîner. Les gens sont en train de mourir. Des famines. Et comme je vous ai dit, c'est une catastrophe humanitaire. Que le Congo soit responsable et immédiatement.
Et qu'est-ce qu'on doit, on doit faire rapidement pour qu'il n'y ait pas une crise économique dans la région?
Oui, rapidement d'abord, il faut bien soutenir la population qui vient de perdre même le moyen de subsistance. Il faut comprendre que 80% du peuple congolais vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc ils vivent les jours au jour. Donc j'attrape le 1000 francs, je mange les 2000 francs, les 5000 francs. Mais là, ils ont perdu leur moyen de subsistance. Donc d'ici là, on pourra avoir des catastrophes. En termes de juste manger, nourriture et des épidémies, encore une fois. Donc, il ne faut pas attendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est parce que quand j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, apparemment, il compte sur les organisations internationales. Ça, je déteste. Ce n'est pas l'esprit Kujitegemea. Ce n'est pas l'esprit de se prendre en charge. Une nation doit être capable de se prendre en charge. Certes que les organisations peuvent venir pour augmenter, n'est-ce pas ? Pour subvenir, pour ajouter et faire un peu du mieux. Mais c'est les gouvernements qui doivent tout faire pour
venir en aide aux populations sinistrées.
Les restes, ça sera des plans à moyen terme. D'accord. C'est-à-dire pour les gens qui ont perdu de maison, indemniser, il n'y a pas d'assurance malheureusement, ça je le sais déjà. Donc, qui va indemniser? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une catastrophe naturelle. Ça ne devait pas rester lettre morte. Les gouvernements devaient, d'une façon ou d'une autre, faire tout pour que la vie économique puisse reprendre rapidement.
Bien. Avant de donner la parole à Maître Ruffin Loco, nous allons conclure avec le professeur Albert Kabasele. Vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis en ligne, Radio Okapi, je vous écoute.
Oui, professeur, je rappelle que vous êtes physicien et expert en télédétection. Alors, donc, presque tous les intervenants sont d'avis qu'il faut renforcer les capacités de l'OVG, il faut donner des moyens, permettre à l'OVG de bien travailler. Il semble que depuis sept mois, l'OVG n'avait plus de financement. Il y avait un financement de la Banque mondiale, mais après, il n'y avait plus rien pour permettre à cette institution de bien faire, cet observatoire de bien travailler.
Écoutez, à quelque chose, malheur est bon. Je n'hésite pas de vous dire que la situation des centres de recherche en République démocratique du Congo laisse à désirer. Je me pose même des questions. Nos universités enseignent quoi? Parce qu'une université doit enseigner ce qu'elle a cherché scientifiquement, ce qu'elle a prouvé scientifiquement, ce que le professeur a vérifié dans son laboratoire. C'est ça qu'il doit enseigner. Donc, nous n'avons vraiment pas de centre de recherche. Moi, je suis directeur général de l'Institut géographique du Congo. Nous n'avons pas de financement depuis 2014. Le pays n'a pas de carte géographique. L'armée fait des exercices avec des cartes françaises. Donc, on montre à un militaire congolais comment se comporter sur les champs de bataille, mais avec une carte de la France, pas une carte congolaise. Voilà, par exemple, ce que je vous dis. Et c'est vrai. Donc, je suis en train de me battre pour faire des cartes avec des moyens de bord, en tant que petits locataires. L'OVG, là, et je voyais autrefois des Allemands là-bas. Je venais faire des formations là-bas, à l'époque du DG Kachua Karume. J'ai vu les Allemands nous aider. Je vois l'Union européenne qui se bat. Mais cette politique de mendicité, jusqu'à quand resterons-nous des bébés? Même les avions, les hélicoptères militaires, pour circuler et voler autour de Goma, il faut la MONUSCO. Je pense que nous sommes en train tout simplement de démontrer qu'il ne fallait pas qu'on soit un pays indépendant en 1960, parce que nous tendons la main à tout, pour avoir tout. Voilà le problème. Et aujourd'hui, les fissures volcaniques de Munigi, de Mugara, de Somme-Nyiragongo, là où on mettait les capteurs, les ADFNA ont tout pris. Ils ont volé, je ne sais pas pourquoi, ils ont pillé. Et maintenant, là, dans cette insécurité avec les volcans, aucun chercheur ne peut aller là-bas pour prélever les données. Et même les capteurs sont brûlés. Mais si le pays avait les satellites peuvent vous donner certains renseignements. Certains renseignements qui peuvent vous permettre de suivre l'évolution du volcan. En étudiant la densité des émanations de gaz, des aérosols et des dioxydes de carbone. Donc on pouvait suivre ça. Imaginez que le petit Rwanda à côté a déjà un satellite. L'Angola a un satellite. Le Burkina Faso a un satellite. Demain, c'est le Mali. Et la RDC est toujours là, en train de commander. En train de commander. Est-ce que le Burkina Faso a des richesses que la RDC a?
Donc, vous voulez dire que pour détecter...
La recherche, c'est la colonne vertébrale d'une nation.
Oui.
C'est sans recherche, il n'y a pas de nation.
Professeur,
en Europe,
professeur Albert, professeur Albert,
de recherche.
Professeur,
la RDC, c'est le contraire. Oui. C'est là où on nous met on met n'importe qui pour faire de la recherche. Donc, je pense qu'il y a là un problème. Et le pays ici ne manque pas d'argent. Quand on voit des millions voler, les voleurs au Congo ne volent que des millions. Jusque-là, on ne nous présente pas de voleurs qui ont volé des milliers, mais des millions, des millions. Ça vaut combien d'hélicoptères pour surveiller le volcan? Voilà le débat.
Bien.
Le débat, c'est aujourd'hui de saisir cette balle au bon et de ne plus encore revivre les mêmes choses. Quand on dit que le Rwanda fermait les frontières, normalement, il ne fallait pas que la population aille vers le Rwanda. Il devait aller vers Sake, ainsi de suite. Bon, je pense que notre gouvernement est en train de se déployer pour prendre ces gens en charge. Si je sonne la sonnette d'alarme, quel pays nous voulons demain? C'est formation et la recherche. On commence par ces trois choses. La formation. Donc, un pays qui ne maîtrise pas comment former ses gens, faire la recherche et comment se faire soigner, ce pays n'existe pas.
D'accord. Professeur Albert Kabasele, je rappelle que vous êtes physicien et expert en télédétection. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Retro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa. Tukwa bongo et tukwa bongo. Tukwa bongo.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de l'éruption du volcan Nyiragongo qui a eu lieu le samedi dernier à Goma. Comment se présentent les plans des contingences? On en parle et nous parlons aussi des différents aspects économiques sur le plan juridique aussi. Maître Louko, avant d'aller plus loin, vous avez suivi ce que le professeur Kabasele a dit tout à l'heure. On doit acquérir des satellites, des hélicoptères, des capteurs, tout ça. Et puis, il faut former les gens qui vont s'occuper de la surveillance.
Bon, le disons,
tout ça, ça entre dans la contingence.
Dans l'ensemble. Nous le disons sur cette chaîne, ça fait une vingtaine d'années presque. Les soutiens à la recherche. Donc, il a disparu dans notre pays. Ça fait longtemps maintenant. Hein, donc, la recherche dans notre pays. D'ailleurs, à l'époque, on vous rappelait, lorsque nous étions encore des étudiants, on allait aux œuvres estudiantines pour prendre les frais de recherche pour la rédaction d'un TFC. Frais de recherche, pour la rédaction des mémoires, frais de recherche, pour la rédaction du mémoire de DS ou la thèse. Il y avait des frais de recherche. Tout ça, ça a disparu. Mmh. La bourse de recherche n'existe plus. Donc, ce qu'au Congo, il y a un problème majeur en ce qui concerne les soutiens à la recherche. Mais déjà, en ce qui concerne l'observatoire, nous avions l'assistance de la coopération allemande parce que l'Allemagne a une dette morale par rapport à la région depuis les années de Bismarck et consorts. Mmh. Donc, l'Allemagne, d'ailleurs, vous ne rappelez pas, rappelez-vous que c'est le financement de l'Allemagne qui a permis qu'on puisse, n'est-ce pas, déblayer la partie, c'était la Banque mondiale et l'Allemagne. La partie qui a été endommagée de l'aéroport, qui a été endommagée par l'éruption de 2002. Vous voyez, donc, l'Allemagne est là, il soutenait l'observatoire et le Japon. Alors, mais comme le matériel a été volé, qu'ils ne sont pas payés, ils n'ont plus de financement, ne fût-ce que pour Internet.
Il y avait même un financement de la Banque mondiale.
Voilà. Donc, mais principalement, vous voyez, principalement, c'est l'observatoire, donc la surveillance. Il y avait des matériaux de surveillance. Et ces matériaux, donc, comme déjà l'alerte était jaune, ni t'était le vol, le matériel et tout ce qu'on a raconté ici, la surveillance aurait permis de constater qu'il y a une brusque montée ou bien une brusque montée pour alerter, ramener à rouge et de mettre en place. Bon, je n'ai pas voulu réagir au propos du collègue du plateau, j'oublie
professeur,
le nom.
Professeur Dadi Salé.
Oui, parce que dans le plan de contingence, ceux qui doivent aller au Rwanda, ça ne dépend pas de nous, parce qu'il faut que la frontière soit ouverte. Et donc, lorsqu'il y a pression, c'est pourquoi la population de Goma a toujours considéré que ce plat-là n'est pas le plus approprié. Je parle de 77, c'est plus récent. Je parle de 2002. Ceux qui ont toujours traversé la frontière, il ne faut pas 10 jours là-bas. Il faut, à la limite, ils entrent aujourd'hui et le lendemain, ils rentrent. Donc ça, c'est une expérience de cette partie du plat de la contingence qui marche difficilement. C'est vrai, ceux qui sont allés à Sake, ils sont accueillis par la population de Sake. Il n'y a aucune structure qui a, dans cette surprise générale, même les services de l'État étaient
surpris. Tout le monde,
le gouvernement, le monde était pris. Donc, les gens ont tout simplement mis le temps de mettre les pieds au cou et de se sauver la manière qu'ils pouvaient. Donc, la débandade était, et c'est la débandade qui a causé le dégât. Les dégâts de disparition, de morts, et puis, alors, il faut insister sur le fait que chaque fois qu'il y a éruption à Goma, il y a toujours le danger de ces gaz-là. Parce que les effets secondaires de l'éruption, c'est les gaz méthane disséminés maintenant qui étaient en bas, il est ramené à la surface. Et c'est ce qui étouffe. Vous verrez que la plupart des animaux qui sont en train de mourir, qu'on a trouvé les dépouilles des chèvres, des poules et consorts, c'est la suffocation.
Gaz, oui.
C'est le gaz. Donc, ce n'est plus les laves elles-mêmes, mais c'est maintenant la suffocation. Alors, donc, c'est cet ensemble-là qui fait que si la surveillance avait continué, on aurait prévenu la population et il n'y aurait pas eu panique. Les gens se seraient sauvés parce que la population de Goma est déjà habituée au plat de contingence. Ça veut dire chaque fois qu'il y a éruption,
on sait par où il faut fuir.
On sait que Mon Goma est à côté.
Oui.
Dans la mesure qu'on peut, on peut s'échapper en arrivant à Mon Goma. Il y a le trajectoire de Sake. Il y a les trajectoires qui a toujours été le plus dangereux, c'est celui de Rutshuru, parce que c'est de là que vient le volcan. Celui-là n'est pas dans le plan d'évacuation, sauf pour les populations qui sont à Kibumba et à Monigi, parce qu'elles peuvent aller à Rutshuru, parce que celles-là ne peuvent plus aller à Goma, n'est-ce pas? Et qui sont à Kibumba, si ils sont dans les trajectoires du danger, ils doivent aller donc vers Rutshuru et Kiwanda. Donc, les axes principaux d'évacuation de ce plan-là, c'est les Mon Goma, la montagne qui est là parce que les volcans ne montent pas là-bas, et la route principale de Sake. Donc ça, c'est l'espoir de notre continent. Alors maintenant, lorsque le gouvernement n'a pas pris les dispositions, et j'ai mentionné le fait qu'il y a état de siège là-bas, donc c'est une situation d'exception.
Oui, d'exception.
Vous voyez, c'est une situation d'exception. Peut-être cette situation-là aurait même permis au gouverneur d'être plus efficace. Et c'est pourquoi lorsqu'il prend la mesure que non, les écoles sont fermées, donc jusqu'à nouvel ordre, et donc il faut former la population. Nous sommes venus
Maître
ici.
Maître Louko, on va suivre les informations tout à l'heure et nous allons revenir juste après les informations pour la deuxième partie de cette émission consacrée à l'éruption du volcan Nyiragongo, comment se présentent les plans de contingence et on va parler de son application. Alors, vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien, le standard est toujours ouvert, composé les 081 890 63 94, écrivez écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Voilà. Nous allons, nous tentons de joindre le directeur de l'Observatoire volcanologique de Goma. Et si nous arrivons à mettre la main sur lui, ce sera une bonne chose pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service consacré à l'éruption du volcan Nyiragongo. Nous parlons du plan des contingences et sa mise en œuvre. Nous avons dans ce studio professeur Dadi Salé, expert en développement. Professeur, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Et Maître Rufin Luko Moussoubao, juriste et chercheur en droit, est également de la partie. Maître Rufin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous tentons de joindre le directeur de l'IVG, de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui est très sollicité en ce moment. Nous pensons le faire intervenir également dans cette émission pour en savoir plus. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation et la coordination de cette émission. Au micro, Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine au Capi Service.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Le volcan Nyiragongo est entré en éruption le samedi dernier, occasionnant ainsi un mouvement massif de la population. La panique était généralisée à Goma. Et selon les porte-parole du gouvernement, le bilan provisoire fait état des 15 morts, dont 9 des suites des accidents de circulation. 17 villages ont été touchés par la coulée des laves qui a détruit à son passage des habitations et ainsi que des infrastructures. Alors certains déplacés ont déjà regagné leurs habitations, d'autres pas encore, et on signale qu'à ce moment, il y a beaucoup de tremblements des terres sur place dans la région. Alors, comment se présente, il semble qu'il y a le plan des contingences a toujours existé. Comment il se présente et quels sont les mécanismes mis en place pour les mécanismes d'alerte, le secours, la prévention de ce genre de risques naturels? Eh bien, on en parle dans cette émission. Vous avez des préoccupations, des questions, composez le 081-890-63-94. Maître Rufin, vous étiez en train de suivre les informations, vous étiez en train de nous parler du plan des contingences.
Du plan des contingences, oui. par rapport à ces différentes branches. Mmh. Hein, donc, c'est, les voies d'évacuation, d'abord, c'est l'autorité de la ville ou de la province, c'est le gouverneur qui déclare à la population que...
Professeur Dadi Salé avait déploré le fait que ces plans n'aient pas vulgarisé.
Non, il a déjà été plus ou moins vulgarisé parce qu'il y a des émissions qui ont fait, il y a eu même des spots et tout ça, et il y a eu des banderoles dans la ville qui avaient été déjà présentées après.
Mais c'était pas assez, il fallait peut-être.
Il n'y avait pas eu assez. Non, le problème c'est l'observatoire. Donc c'est l'handicap. Donc lorsqu'on a neutralisé la sentinelle, ceux qui sont dans la maison ne sont plus en sécurité. Donc le fait de neutraliser le matériel de l'observatoire a laissé la ville pendant plus de 12 mois sans observatoire. Et c'est ça le danger, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'après que ce matériel soit disparu, volé, et que l'on ne puisse pas les remplacer ou rapidement trouver des solutions
intermédiaires.
Les détecteurs pour continuer à surveiller. Parce que déjà, il y avait l'alerte jaune, donc la situation était déjà dangereuse. Peut-être pas plus dangereuse, mais dangereuse, lorsqu'il y a déjà l'alerte. Alors, il ne restait que une seule barrette, donc si on monte à rouge, donc la situation est totale. Alors là, on décrète l'état d'évacuation. Et celui qui le décrétait, c'est le gouverneur. Actuellement, c'est un gouverneur militaire. Et c'est à la dernière minute, pendant que la population est en train de se débrouiller déjà à sortir. Et donc, lorsque vous devez sortir, le placer Sake, Bukavu, Mogoma et le Rwanda, d'Avdir Gisenyi. Or, Gisenyi, je disais que Gisenyi a la particularité qu'il faut que les autorités d'en face ouvrent la frontière. Or, cette question s'est toujours posée depuis longtemps. Il y a toujours
même en 2002, c'était pareil.
Mais en 94, nous, on a ouvert la frontière. Le Congo, le Zaïre a ouvert la frontière pour recevoir plus de millions de populations appareillées qui venaient du Rwanda. Donc, nous avons ouvert la frontière à Kavimvira, nous avons ouvert notre frontière à Tchangougou, nous avons ouvert notre frontière à Goma, nous avons ouvert notre frontière à Rutshuru. Donc, le Congo avait ouvert ses frontières. Nous avons toujours ouvert nos frontières sans beaucoup de difficultés.
Mais l'évacuation vers Bukavu...
Bukavu n'a pas marché, parce qu'il n'y avait pas de bateaux disponibles pour la chose. Donc, il faut des engins navigants qui doivent, n'est-ce pas, accueillir la population.
Et pour qu'il y ait des engins, il faut que ces gens soient prévenus.
Ils soient prévenus. Donc, comme ça a été la surprise, vraiment, cette fois-ci, ça a été la surprise, et nous venons déjà de donner, n'est-ce pas, les motifs de la surprise. Mais je crois qu'en définitive, il faut interpeller des gens. Dans notre pays, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de responsables. Il n'y a pas de responsables. Personne n'est responsable. Il y a des morts, d'autres vont mourir encore. Il n'y a pas de responsable. C'est ça le drame de cette gestion, n'est-ce pas, vaille que vaille. Il faut qu'on établisse les responsabilités. Comment le plan n'a pas marché? Pourquoi? Même à cette surprise-là, pourquoi attendre les autorités ne pas communiquer? C'est WhatsApp qui a communiqué dans tous les sens. J'ai vu même des éruptions du Japon qui ont été infiltrées dans la zone. Alors, non, c'est pour paniquer les gens encore. Alors, j'ai essayé à ma façon de réagir que ça c'est pas le Japon. Alors, tout ça, donc, dans tous les sens, parce que tout simplement, lorsqu'il n'y a pas des autorités qui communiquent pour donner la conduite convenable, et ça va dans tous les sens. C'est la désinformation et c'est la panique qui a causé tous ces dégâts.
Professeur Dadi Sali, quels sont les autres aspects de ce plan de contingence qui n'ont pas été peut-être mis en œuvre jusque-là?
Oui, je pense que, comme moi j'aime parler plutôt à tout le peuple, c'est quoi d'abord un plan de contingence? C'est tout simple, c'est un plan préventif qui doit avoir un aspect prédictif et réactif. Et à ce moment-là, on suppose qu'il y a des structures stratégiques et opérationnelles qui doivent aider à contrôler cette situation d'urgence. Cette définition nous renvoie encore une fois à gouverner, c'est prévoir. Et on s'attend à des catastrophes et on vit avec, comme Maître l'a si brillamment dit, on doit vivre, on vit avec le volcan.
Ça peut arriver à tout moment.
Oui, partout au monde. Il y a des milliers de volcans, il y a une question qui a été posée. En Afrique, on a plus d'une centaine, pas centaine, 200 je pense. J'ai les chiffres, mais on ne sait pas additionner. On a plus de 200 volcans. Je ne parle pas d'actifs, je parle de volcans. La raison pour laquelle j'ai dit, s'il vous plaît, il faut bien, les terminologies doivent être claires. On parle de volcans. Je n'ai pas dit actifs ou bien non actifs. On a plus de 200 volcans énumérés. Dans ce sens-là, parce qu'on est des scientifiques, on ne peut pas raconter des histoires comme si on est dans la rue. Alors, dans ce sens-là, on comprend effectivement que la définition même nous renvoie à une prévision. Et une prévision doit être aussi budgétaire. Et c'est là où nous avons tous dit que ben, l'OVD n'avait pas de moyens.
L'OVG.
L'OVG.
Voilà.
Quand j'ai l'OVD, j'ai animé quelque chose par rapport à l'OVD. D'accord. Ça revient dans la tête. L'OVG, ça va, n'a pas de moyens. N'avait pas de moyens. Tout ce qu'il y avait comme subvention avait été coupé. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à un résultat dans ce sens-là? Alors, pour signaler aussi, pour raison d'information, encore une fois, ça doit être en juillet 2018, il y a eu un plan, un travail, où il y a eu un plan de contingence commun entre la RDC et les Rwanda. C'est là où je parlais de d'abord ce qui est officiel, parce que c'est pas à moi d'inventer. Si on dit un plan de contingence pour la gestion conjointe des catastrophes adoptées à Goma, c'était le 24 juillet 2018, eh ben, moi je ne fais que constater. Mais malheureusement, comme je suis en train de dire, gouverner c'est prévoir, nous le vrai problème, je précise encore une fois, qu'il y a eu un exercice inédit à Goma, un exercice grandeur nature par rapport au volcan. Et c'était vers Bouéné
On a fait une simulation.
Oui, on a fait une simulation. Donc, je ne parle pas des on-dit, hein, parce que parfois, quand on a dit non, la frontière, je m'excuse, la frontière a été ouverte la nuit. Les Rwandais ont ouvert la frontière et les Congolais ont traversé la nuit. Je ne parle pas des sentiments, vous me suivez?
Mais il semble que ce n'était pas facile.
Je suis désolé, ça ne pouvait pas être facile. Parce qu'effectivement, on a compris qu'il n'y avait pas de vraies prévisions. C'était tout le monde était surpris, et même les autorités, tout le monde. Ce qui fait que le Rwanda, naturellement, ça a pris un peu de temps. Et immédiatement, après peut-être une heure, n'est-ce pas, des heures, les gens ont commencé à traverser. Donc on peut dire qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas dire que les frontières n'ont pas été ouvertes, s'il vous plaît. Ça, c'est contre la vérité sur terrain. Les frontières ont été ouvertes et il y a des gens qui sont allés
mais
au stade.
Mais il n'y avait pas de structure d'accueil parce que c'est, tout non, le monde
Rwanda,
était pris de court.
Je précise, au Rwanda, il y a eu des structures d'accueil. Je suis rwandophobe, s'il vous plaît. Je déteste le Rwanda parce que pour moi, le Rwanda fait partie des problèmes du Congo. Mais ça ne me donne pas l'autorisation, je l'ai dit ouvertement, mais ça ne me donne pas l'autorisation de mentir. S'il vous plaît, je suis un scientifique. Les gens sont allés au stade. Accueillis au stade et dans des familles d'accueil et dans des maisons. Ça va, ils ont séparé les femmes, je donne des informations sur.
D'accord.
Ils ont séparé les femmes enceintes, ils les ont appelées. Il y a eu un semblant d'organisation. Je précise, même jusque
et
là, là
et comment les gens dorment, par exemple, les déplacés jusqu'aujourd'hui, comment ils dorment?
Oui, il y en a qui, dans des centres qui sont restés au stade sans matelas. Je le précise, mais c'était au stade, encadré, sans matelas.
Professeur, revenons à ce que vous avez dit, rwandophobe. Est-ce que vous pouvez retirer ça parce que...
Merci beaucoup.
C'est la radio de la paix, on ne peut pas laisser passer un message comme ça.
Oui, je suis d'accord, j'ai retiré immédiatement. Tout à fait. Mmh. Donc, dans ce sens-là, on comprend effectivement que le fait que les gens soient sceptiques, n'est-ce pas, à traverser le Rwanda, c'est normal que la grande... comment est-ce qu'on peut dire? Les grands plans, c'est vers Sake. Là, Maître a tout à fait raison, mais on le sait. Mmh. C'est vers Sake et vers le lac, mais vraiment Sake. C'est ça le plus grand. Et beaucoup de gens ont pris la route vers Sake. Mais arrivé à Sake, ben, il n'y a pas de plan d'accueil. Jusque-là, je viens de reposer la question parce que je vous ai dit, je ne parle pas comme un petit enfant. Ben, j'ai mes gens sur terrain. Il n'y a pas de structure d'accueil. Je le confirme par rapport à mes informations. Pas de structure d'accueil à Sake. Jusqu'à 7 heures. Ce qui fait que vous pensez que les gens vont aller à Sake.
Comment les gens dorment?
Ben,
comment ils vivent aujourd'hui?
Pour ils sont vite rentrés. Ils sont rentrés vers Goma parce que ben, comment est-ce qu'ils vont rester à Sake? Maintenant, le gouverneur, et comme je vous ai dit, a demandé à ce que les gens puissent évacuer, mais il n'a pas encore autorisé que les gens puissent retourner, surtout à des zones bouénées, n'est-ce pas, et à des zones assez rouges. Et c'est clair que ce sont des zones rouges. Mais en attendant, il faut accueillir ces gens-là. C'est même ça le plan d'une contingence. Un moyen pour être capable d'évacuer des gens en sécurité, les prendre en charge et au moment opportun, ça va, essayer d'avoir une vie un peu maintenant qui reprend.
Alors, le plan des contingences permet le déplacement des populations.
Tout à fait.
Et maintenant, après les déplacements, ces gens, comment est-ce qu'ils seront pris en charge?
Le plan des contingences le prévoit. C'est-à-dire que c'était prévu, on devait faire ériger des sites. Ça va? Des sites à tout endroit. Ça va? Où il y a des tentes, où il y a un minimum. Il y a, comme l'exercice a été effectué, je vous dis, grandeur nature, donc on ne parle pas des on-dit, où on accueille directement les gens, les blessés, n'est-ce pas? Il y a des ambulances, il y a des blessés, il faut s'occuper d'eux, des femmes enceintes, on les écarte un peu à côté.
Les enfants?
Oui, les enfants, on prend en charge ces enfants, mais ceux qui devaient les prendre en charge ne sont pas payés. Ils sont démobilisés. Ceux qui devaient changer les drapeaux, parce qu'on parle des drapeaux rouges. Qui va changer les drapeaux rouges? Parce qu'au fond, il n'est pas là, il n'a pas les unités,
d'ailleurs,
il n'a pas les fonds de
fonctionnement. Le directeur de technique de l'OVG qui devait intervenir, on me fait signe qu'il ne pourra plus, il ne veut plus intervenir, il s'est
excusé.
C'est
dangereux pour lui parce que, je vous l'ai dit, nous on a été en contact avec lui hier à travers nos services. Au fond, il n'a pas de fonds. Et que tout ce qu'on lui demande de faire, des prévisions, il n'a pas de fonds. Ça ne peut pas se faire en grande partie. Là, le gouverneur est en train de se débrouiller. Et c'est là où on met un peu les organisations des Nations Unies en exergue.
Les humanitaires.
Les humanitaires en premier plan pour essayer tant soit peu de sauver la situation. Mais en soi, les gouvernements, ben, il faut le dire, jusque-là, il y a des essais. Je félicite les gouverneurs militaires. Il y a des essais. Il a renforcé les militaires qui ont essayé aussi tant soit peu de diriger les malades. Là où je félicite, je vous dis, il a de diriger les malades, ABCD. Il y a eu un semblant. Je vous ai parlé de 20%. Mais les gros du plan de contingence n'est pas du tout effectué et n'est pas respecté.
Bien. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le, oui. le 140, pour tout ce qui ont besoin d'assistance. Alors, maître, vous avez suivi le plan de contingence à des problèmes. Alors, aujourd'hui, comment prendre en charge? Il faut bien gérer la catastrophe. C'est une situation catastrophique. Comment aider toutes ces populations déplacées?
C'est depuis 94 que l'est du pays a un épanchement de la communauté internationale à plus de 60%. Donc, et ça, c'est le drame du pays. Ça veut dire nous dépendons de la communauté internationale. Et donc, si elle n'a pas agi là-bas, personne ne va agir. Et ça, c'est depuis, n'est-ce pas, en passant par la crise de réfugiés en 1994, par l'éruption volcanique de 2002, et par tout ce qui s'est passé là-bas, vous voyez, il faut absolument que la communauté internationale intervienne à l'est du pays. Donc, c'est un cauchemar. Nous le disons tous ces temps, réveillons-nous. Cette histoire-là de notre budget national qui doit être prise en charge à plus de 54% par l'aide de la communauté internationale, ça doit s'arrêter pendant que les dirigeants du pays, les politiques, détournent des millions chaque jour. Ça doit s'arrêter. Avec l'argent que nous générons, par exemple, de la télécommunication, nous ne pouvons plus continuer. Lorsque je parle de la télécommunication, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme droit à percevoir de toutes ces maisons de télécommunication, je ne parle pas des minéraux, je ne parle pas de ressources naturelles et consorts. D'abord,
seulement la télécommunication.
Oui. Pas ce qu'elle nous déclare, mais ce que nous contre-vérifions, nous n'avons plus le droit de dépendre d'un budget qui est en épanchement de soutien à la communauté nationale à plus de 54%. Donc, l'est du pays, ça fait plus de 20 ans, et les dépens est géré par... Regardez par exemple, Ebola, Covid, et tous les autres qui ont intervenu à l'est du pays. C'est la communauté internationale. Lorsqu'on parle du soutien, tu as parlé du soutien de l'OVG, de la Banque mondiale. Bon, pour qu'on puisse déblayer l'aéroport qui a été endommagé en 2002, c'est la communauté internationale. Il faut que ça s'arrête.
Il
faut qu'on se prenne en charge parce que nous avons le moyen. Nous pouvons mobiliser, comme le gouvernement Samalou Kondé s'est engagé à mobiliser ces moyens-là en luttant notamment contre le détournement et la corruption. L'argent se trouve entre les mains des politiques. Il faut les arrêter et nous allons récupérer. Rappelez-vous que le procès Kamere, nous avons récupéré environ, ne fût-ce que par le jugement, environ 7 maisons et 3 immeubles. C'est déjà beaucoup en termes de dans un pays où nous avons perdu beaucoup de maisons officielles pour la résidence des officiels. Si nous pouvons récupérer par le comportement des policiers en les condamnant, en récupérant des maisons qui sont restées parties par là, nous avons dans moins de 2 ans plusieurs ressources de revenus pour que la situation comme à l'est du pays, nous puissions venir en aide à notre population. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui reste maintenant?
Un instant, je reviens à vous, le temps d'accueillir Monsieur Michel Michael Veilla, vous êtes psychologue, il intervient depuis Goma. Monsieur Michael, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons parler avec vous tout à l'heure des enfants. Nous savons qu'il y a eu la panique était généralisée. Les enfants ont subi des traumatismes là-bas à Goma. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous proposer de suivre cet enrobé, cet élément qui a été réalisé par notre consoeur Rosalie Zawadi par rapport à la situation des enfants.
Âgé de 6 ans, ce petit garçon a eu du mal à aller se coucher tellement il avait peur. Et lorsque sa fatigue a eu les dessus sur sa peur, il a dormi après minuit. Mais même dans son sommeil, son calvaire s'est poursuivi.
J'avais trop peur, je faisais des cauchemars. J'ai fait un cauchemar que la lave était en train de couler chez nous. Alors mes jambes bougeaient, ça faisait très peur. Je croyais que la lave était dans le verre, le sol.
Même situation de sa sœur de 10 ans qui dit avoir eu peur de mourir.
J'ai très mal dormi, j'avais peur que je meure. Quand on a vu le feu, ça a alerté la maison. On avait peur de mourir tous et les parents n'étaient pas là, ils étaient à la messe. Quand c'est arrivé, on a fait tous les petits sacs. On a dit si le volcan arrive par ici, on va partir. On a vu même des photos où il y avait la lave qui coulait sur des maisons. Les tremblements, ça faisait bouger les fenêtres et ça faisait très peur.
Les présidents de la société civile ville de Goma, Marion Gaveau, invitent les parents à être proches de leurs enfants en cette période difficile pour eux.
En cette période, en ce moment, nous demandons à tout le monde de garder les enfants à la maison et écouter, attendre les informations des autorités pour bien gérer et vivre avec cette éruption volcanique.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Bien, merci Rosalie Zawadi pour cet élément. Alors, Monsieur Michael Véouard, vous êtes psychologue. Comment aujourd'hui, nous savons que les enfants sont traumatisés par tout ce qui s'est passé. Il y a même certains parents qui ont perdu les traces des enfants. Aujourd'hui, comment les aider à sortir de ces traumatismes?
Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à rappeler que l'éruption volcanique représente ce qu'on appelle un événement traumatique. Et lorsque je parle d'un événement traumatique, je vois un événement qui expose la population ou les gens à la mort effective, et où aussi l'éruption représente une menace à la mort. Et bien sûr, les gens qui sont exposés directement au volcan sont exposés à développer des blessures, à subir des blessures graves. Et un événement qui expose à une mort effective, à la menace de mort ou aux blessures graves, un événement traumatique. Et cet événement traumatique, comme ça, c'est basé sur la peur de la mort, c'est pourquoi ça a des conséquences graves sur la santé mentale de la personne. Et pratiquement ou spécifiquement au niveau des enfants, un enfant qui a connu un événement traumatique, vous n'allez pas comprendre son comportement parce qu'il y aura un changement à partir du moment où il a été exposé. Vous allez réaliser qu'au bout de certains temps, comme ce que Mme Rosalie vient de rapporter, vous allez croire que l'enfant va avoir peur à tout moment, il sera agité qu'avant, et il sera plus agressif, il peut être plus irritable et colérique, et il peut développer des pleurs sans raison apparente, et il peut avoir des maux de ventre, il peut faire des petites diarrhées, il peut avoir des céphalées, des nausées, etc., etc. Et ce sont des signes qui prouvent autant qu'il y a la personne, et dans ces moments qu'on appelle choc émotionnel, et que ça demande des interventions pour aider l'enfant à sortir.
D'accord. Alors, qu'est-ce que les parents doivent faire en cette période difficile pour aider leurs enfants? Déjà, eux-mêmes, les parents sont aussi traumatisés.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Premièrement, je vais catégoriser les enfants. Et la première catégorie des enfants, c'est les enfants, les nourrissons. Les enfants qui sont nés, les trop jeunes là, qui sont très fragiles. Et, mais aussi, il y a des enfants qui ont déjà l'âge, qui savent déjà communiquer, qui savent déjà écouter ce que maman a dit, et qui savent interpréter, qui savent aussi manifester leurs sentiments et qui ressentent des émotions clairement et ça se voit. Et premièrement, et pour les enfants qui ont déjà de l'âge, les enfants qui savent communiquer, les enfants qui savent parler, qui ont des capacités et donc à un certain niveau de l'enfance, et pour ces enfants-là, ils ont besoin qu'ils soient rassurés. Donc les parents doivent rassurer les enfants qu'ils sont encore là. Et les enfants ont besoin d'avoir des informations. Et l'appui de l'enfant est fondé sur la communication efficace. Et l'enfant a besoin d'être rassuré par ses parents. Et l'enfant a besoin d'être écouté. Ça veut dire quoi? Si l'enfant a une question à poser à sa mère doit être disposée à répondre à l'enfant. Là, tellement que les parents aussi sont traumatisés, mais les parents devaient prendre le premier pas de prendre conscience de cet état de fragilité et de s'assurer que son enfant ne va pas développer ce traumatisme. Pourquoi doit répondre à ces questions? Lorsque l'enfant pose une question, le parent doit lui faire l'état de lui répondre. Et comme surtout, les questions sont liées à la peur que l'enfant a de manifester. Et l'enfant n'a jamais vu des encombrements comme ce qui s'est observé à Goma. À 22h, à 0h, l'enfant réalise qu'il est dehors, dans une masse de personnes, des milliers de personnes, il n'a jamais vu cette ambiance, à part peut-être l'école maternelle, où il connaît que je suis avec tel collègue à l'école, et là, il y a l'ambiance de danse et tout, d'apprentissage. Mais dans un contexte traumatique, il y a des enfants qui pleurent, il y a des parents qui marchent vite. Alors cet enfant a besoin d'abord de comprendre que nous sommes en danger et que nous sommes en train de prendre la position de nous échapper du danger. L'enfant a besoin de réaliser qu'il n'est plus en danger et c'est le parent qui va rassurer à l'enfant que maintenant nous sommes en zone de sécurité et l'enfant sera aussi en train d'avancer. Et là, les enfants, généralement, ils développent le sentiment de culpabilité, surtout pour des familles qui n'ont pas, par exemple, des moyens de déplacement où les enfants doivent se déplacer à pied la nuit à 22h ou à 23h. Et maintenant, il peut arriver un temps où il faut que vous marchiez vite parce que le danger est en train d'avancer vers vous. Et quand la femme, maintenant, va réaliser que c'est lui qui fait assez qu'on ne marche pas vite, il peut se dire que c'est moi qui ferai assez que nous soyons assez par les dangers. Mmh. Et la femme, surtout, peut développer la culpabilité. Et cette culpabilité, une fois que ça démarre à l'essence, ça peut l'amener à développer des troubles et des plus avancés.
Nous devons épargner les affaires des images aussi, des vidéos à rapport avec...
Oui. Dans
avec
les réseaux sociaux, oui.
Oui, mais aussi, nous devons nous assurer que les enfants, là où ils sont entrés, ils sont en contact avec des petits jeux, et ils sont avec les pères pour jouer. C'est sûr que les enfants peuvent avoir tendance à manifester, à présenter des jeux, à faire des jeux qui ont lien événement, mais on doit quand même leur donner cette opportunité de jouer. Et la particularité pour les enfants, pour les nourrissons, un mois, des deux mois, et ils ont besoin d'être rassurés par leur parents. La mère, pour un nourrisson de 0 à 11 mois, c'est sa mère qui va lui rassurer que tout va bien. Et la mère va lui rassurer à travers son humeur. Et maman qui allait l'enfant, et l'attitude d'abord de l'enfant à partir de sa naissance, c'est que quand maman allait, l'enfant a son regard sur la figure de maman. Et quand il y a changement, quand il y a un traumatisme contre l'érection, automatiquement, la mère elle-même, elle a une humeur qui change à tout moment, de tristesse, elle a des agitations et qu'on sort. Et l'enfant sait lire l'attitude, il sait lire les humeurs de sa mère. Et carrément, ça affecte l'enfant. Ce qui est plus d'enfants, c'est que plus maman est affectée, plus l'enfant va subir aussi le... Maman va sécréter des hormones qui vont même affecter les lèvres maternelles. C'est pourquoi vous allez voir à tout moment l'enfant là qui est affecté, qui va développer des symptômes aussi. Un nourrisson de 0 à 11 mois, il va pleurer, elle ne va pas aussi dormir convenablement, et elle ne va pas bien téter. Donc on se demande, est-ce que la femme besoin de téter? Est-ce que la femme besoin de dormir? Elle a des difficultés parce qu'elle est aussi affectée par des moments de crise grave.
D'accord. Merci beaucoup, Michael Veilla. Je rappelle que vous êtes psychologue, intervenant depuis la ville de Goma. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Radio Okapi. À Manono. Okapi. Sur 104.5 FM.
Okapi. Bien, nous parlons du volcan Nyiragongo. Comment se présente le plan des contingences et sa mise en œuvre. Ah, nous avons en ligne Jean Rocky de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Jean Rocky?
Le professeur vient de parler à propos de Gisenyi, parce que moi, j'étais à Gisenyi en 2000.
C'est Jean Rocky?
C'est Jean Rocky.
D'accord, allez-y, Jean Rocky.
Ouais, je voulais juste ajouter de, par rapport à ce que monsieur le professeur vient de parler là-bas. Moi, j'étais en 2002 à Gisenyi. Même pour aller se soulager, ce n'était pas aussi facile avec la police rwandaise. Même pour aller acheter même de bananes, ce n'était pas aussi facile avec la population. Donc, le plan d'évacuation au niveau de Gisenyi, c'est difficile. Ce qu'on peut demander peut-être à notre gouvernement, qu'il soit d'abord sérieux par rapport aux actes et comment protéger la population. On ne peut pas compter seulement au Rwanda. Il y a la route vers Sake. On peut peut-être arranger et préparer chaque jour les voitures, donc des camions militaires pour protéger le civil. Et préparer aussi les militaires et former aussi les militaires comment protéger votre population en cas de danger. Ce n'est pas seulement le voisin ou la MONUSCO, comme on voit aussi à la télé, comment la MONUSCO tourne. Et où sont nos hélicoptères? Où sont nos voitures, les camions militaires pour nous aider, comme on voit ailleurs? Même si les militaires sont au front, il y en a d'autres militaires, il y en a de la police là-bas. Pour nous protéger, on ne peut pas compter aussi à l'armée rwandaise ou au Rwanda. Mais moi, j'ai fait à peu près 5 jours dehors et je suis retourné à Goma, tandis qu'il faisait encore chaud, plus de 250 degrés. Et la femme de mon grand frère, il l'a mis au monde. Elle l'a mis au monde, c'est moi comme ça, au Rwanda.
Bien, merci. Donc, merci.
Je voulais aussi ajouter quelque chose. Là, le maître Rissin vient d'ajouter à propos de télécommunications. Oui. C'est qu'on peut demander peut-être au gouvernement congolais qui nous aide à éviter, par exemple, Vodacom, Orange et tout ça, qu'ils créent le système là de par flash. Ce n'est pas bien. Là, ils contournent le gouvernement congolais informatiquement. Mais s'ils utilisent seulement la carte prépayé. On achète la carte, tu grattes, tu prends les numéros, tu recharges votre téléphone. Là, ça marche, le gouvernement va contrôler. Et si une fois il y a des ministres ou de quelques ADG ou que n'importe qui bouffent de l'argent en passant par le flash, parce que là, le flash, ce sérieux, le gouvernement ne peut pas contrôler.
D'accord, ça c'est un autre sujet, on reviendra là-dessus prochainement. On va accueillir Ernest de Goma. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Comment vous allez?
Bien, bien, Ernest. Nous sommes de cœur avec vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
C'est pas Monsieur Ernest, c'est Monsieur Ernesto.
Ernesto de Goma, nos excuses, allez-y.
Oui, je voulais intervenir parce que le professeur que vous avez au studio, là, il a parlé que les gens ont été très bien accueillis au Rwanda. Parce que moi-même, je suis allé à la Petite Barrière et à la Grande Barrière.
Mmh.
Et l'éruption volcanique avait commencé à 19h. Et c'est à 22h qu'on a ouvert les frontières. Et on nous a signalé que la frontière a été ouverte après que le président Tshisekedi ait parlé avec le président Kagame. Et ça ne pouvait pas se passer de cette manière-là. Vous savez, les projets de contingence pour la ville de Gisenyi ne peut pas exister. Vous voyez, il faudrait que le gouvernement congolais puisse assurer la population pour que la population puisse prendre la route vers Sake. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Hein? Mmh. Et puis, quand vous voyez l'observatoire de Goma ici, il n'y a plus rien depuis qu'on a volé. C'est depuis de 2002 que le gouvernement allemand avait doté l'observatoire volcanique de Goma
des détecteurs.
Depuis lors, depuis qu'on a volé ces matériels, cet observatoire n'existe que des noms. Les gens ne sont pas payés et ils ne font rien. Moi-même, je suis allé au bureau. Le bureau est devenu vraiment... Vous ne pouvez pas vous imaginer un bureau d'observateur. Nous n'avons qu'un seul observateur au niveau de la République démocratique du Congo, ce qui est basé ici à Goma.
Mais cet observatoire n'est pas du tout équipé.
Oui, n'est pas occupé, c'est devenu des noms, monsieur Jody.
D'accord. Hein? Merci.
C'est devenu des noms.
Ernest, où est-ce que vous êtes en ce moment? Vous êtes déjà retourné à Goma?
À ce moment, je suis à Goma, je suis au niveau de la cathédrale de Goma.
Il semble qu'il y a toujours, des tremblements de terre depuis ce matin.
Il y a des tremblements de terre à chaque 10 à 15 minutes. Des terribles tremblements de terre. Donc, on a conseillé à la population de ne pas rester dans des maisons. Si tous ceux qui logent dans des maisons en matériaux durables et dans des maisons des étages, les gens sont dehors parce qu'il y a risque d'écoulement de maisons parce qu'à chaque 2 minutes, il y a un tremblement
de terre.
Ouais.
D'accord, merci Ernest. Ouais. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je suis à Maître Richard, vous nous avez abandonné jeudi.
Non, non, je suis là.
Merci en tout cas, ça fait un bail pour cette opportunité.
Merci beaucoup, je suis là. Alors, quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui, d'abord, nous compatissons avec nos frères gouvernementiers. Comme on dit souvent, l'ONDC est près du cœur. Oui, monsieur Jody, Maître Richard est mon éminent professeur, parce que l'émission a aussi un caractère éducatif. Tu sais, nous demandons à votre auguste le bon cœur vraiment de nous éclaircir, parce que pour nous autres, c'est pour la toute première fois dans ce genre de situation. Mais en 2002, j'étais en 5e primaire. Mon triste souvenir est que même à Manono, dans le Tanganyika, il y a eu aussi des tremblements de terre. Alors voici la première question. Il faut combien de temps pour assister à une nouvelle éruption? Les gouverneurs militaires qui appellent à la population de vider les lieux. Alors, dans combien de mètres ou kilomètres il faut concrètement afin que les laves aient zéro victime? La troisième question, qu'est-ce qui peut assurer la population que les numéros verts restera toujours opérationnel, car avec la triste expérience, avec les camions anti-incendie, il y a à boire et à manger.
Bien,
préoccupations. Bonne journée.
Merci Charles, bonne journée à vous. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour,
quelle est votre question, Safari?
Je vais faire une...
Désolé, Safari, la communication n'est pas du tout du tout bonne. Désolé, professeur Dadi Salé, vous avez suivi les oui. préoccupations des auditeurs.
Tout à fait, je félicite d'abord le psychologue, monsieur Mikaël. Il a fait une très très bonne analyse, je pense que je viens d'apprendre personnellement beaucoup de choses. J'essaie de le faire déjà avec mes enfants, et mais là j'apprends encore qu'il faut que la maman puisse avoir des attitudes positives et qui rassurent les enfants. Je pense que en sortant de cette émission, je vais suivre cet exemple. Ce qui fait que je demande à ce que les psychologues puissent vraiment faire leur travail. Je pense qu'en 2000...
C'est tout le monde qui est traumatisé avec
oui,
ça.
Oui, naturellement.
Pas seulement les enfants.
Je pense que ça n'avait pas été assez bien fait, ça va, par rapport à l'éruption qui a précédé. Ce qui fait qu'il y a des traumatismes qui, jusque-là, on peut les sentir. Donc, j'espère que vous-même pouvez encore inviter des psychologues pour essayer de rassurer la population et de nous dire des techniques. Alors, monsieur Jean Rouki de Kinshasa a
glissé... Précisons en passant, professeur, que l'éruption de 2002 avait causé près de 250 morts.
Tout à fait.
Et 120 000 sans-abri à Goma.
Exactement.
Oui, c'était énorme.
C'était énorme. Et là, comme je venais de vous dire, c'est encore très grave. Parce que quand je vous ai cité seulement deux maisons, là, c'est à Bouéné. Donc, des maisons sont exiguës. C'est un peu ça, c'est... comment est-ce qu'on peut bien expliquer
ça? Les maisons
ça?
En bois. Là.
Les maisons en bois, des maisons qui sont totalement au même endroit. Donc, il y a plus de maisons brûlées qu'en 2000, selon moi. Qu'en 2002. Jusque-là. Raison pour laquelle j'ai dit, on continue à essayer d'avoir des analyses, parce que en ville, vous voyez, il y a de l'espace, ça a pris la route, mais là...
Mais Dieu merci, il n'y a pas eu des morts, beaucoup de morts
tout
comme
à fait.
En 2002.
Jusque-là, il n'y a pas assez de morts. Donc, on comprend que M. Jean Rouki de Kinshasa, qui dit que effectivement, tout le monde le sait, les gens ont difficile à traverser le Rwanda. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit, les gens sont sceptiques et qu'il fallait exactement que la route vers Sake soit assez sécurisée et des mesures soient puissent être prises. Mais cela étant, écoutez, gouverner c'est prévoir. On gouverne avec des lois. Quand je vous dis qu'il y a un plan de contingence, je suis un scientifique s'il vous plaît. Donc je ne peux pas parler comme si j'étais dans la rue.
Il y a quelqu'un a dit qu'il fallait prévoir des véhicules des militaires,
exact.
Former des militaires en cas de catastrophe. On
non,
s'est j'ai intervenu.
Précise qu'ils ont été formés, mais la formation n'a pas. Je vous ai dit, je suis désolé. En tant que scientifique, il y a les devoirs scientifiques. Je vous ai parlé d'un exercice en grandeur nature. Je condamne les
Il y a même un service
efforts.
De la protection civile,
oui, civile
au ministère de
l'UNESCO.
Non, au niveau du ministère de l'Intérieur.
Oui. Il y a eu de.
Et de la ville.
Exact. Donc, il y a eu quand même des points qui ont été effectués depuis 2002. Mais je pense que c'est l'application maintenant de toutes les prévisions. Qui n'a pas du
peut-être
tout
les moyens,
été...
Les moyens ont fait défaut.
Pas peut-être, monsieur le journaliste. Je confirme à 199,9%. Et là, ce n'est pas le directeur, le numéro 1 de l'OVD. Je vous confirme qu'hier, on a eu sa petite déclaration en coulisses, avec nos services, qui a dit, qui a confirmé qu'il n'y a pas de moyens, qu'il est désolé. Les gens les condamnent, ça va. Mais ben, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Sans moyens. Donc, je pense que si on prend M. Ernesto, quand il dit encore, les gens ne sont pas bien accueillis. Ok, c'est à 19h. Qu'il y a éruption. Vous me suivez? À 19h. Donc, soyez quand même logique. Je vous ai dit, il n'y a pas de polémique. Parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de gens, quand ils entendent Rwanda, ils sont un peu sceptiques, hein, n'est-ce pas? Mais je vous dis qu'ils confirment qu'à 22h, les frontières ont été ouvertes.
Il fallait qu'il y ait des négociations.
Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas tic-tac. 19h, les gens sont encore en train d'hésiter. Ça commence même, c'est à 20h que les gens savent que c'est un peu sérieux. À 21h, les gens commencent à se déplacer. C'est pas si vous me suivez. Et certaines personnes, deux, trois peut-être, qui commençaient à se déplacer déjà vers 19h30, c'est possible. Donc, historiquement, ouvrir des frontières à 22h, et si on doit prendre la diplomatie, ben, c'est pas aussi grave que ça qu'on se le dise quand même.
Professeur, le temps, on va accueillir M. Marin Gavo, président de la société civile de la ville de Goma. M. Marin Gavo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Nous parlons de l'éruption du volcan Nyiragongo et du plan de contingence. Aujourd'hui, comment se présente la situation à Goma?
Merci beaucoup et salutations à tous les co-débatteurs. Aujourd'hui, la situation devient un peu calme. Comme vous le savez, deux jours après l'éruption brusquée, qui n'a pas été informée, qui n'a pas été alertée, c'est vraiment une désolation pour... la population de la ville de Goma et pour une gouvernance au XXIe siècle. Aujourd'hui, les gens qui ont quitté la ville commencent à revenir chez eux. Surtout ceux qui se sont rendus vers Sake et tous ceux qui se sont rendus dans le quartier sud de Goma, et donc le quartier au bord du lac. Et les gens rentrent chez eux, mais malheureusement, il n'y a pas une prise en charge. Il y a encore des tremblements de terre qui se font sentir ici.
De quelle magnitude? Est-ce qu'on a une idée sur la magnitude de ces tremblements de terre?
Je suis sur le terrain maintenant, je n'ai pas eu le temps de voir les techniciens pour avoir le niveau de magnitude.
D'accord.
Mais il y a des grands tremblements de terre qui se font. Déjà au niveau de Gisenyi, au Rwanda là-bas, il y a des fissures déjà sur la route principale. Mais à Goma ici, à part les quelques murs qui ont été mal construits, qui viennent de tomber, des anciens murs qui n'ont pas été, qui n'ont pas respecté les standards de construction, mais de bons bâtiments de la ville de Goma ne sont pas encore touchés pour le moment. Voilà. Mais nous pensons que c'est un regret pour nous qui est éruption volcanique, que l'OVG ne soit pas au courant, que la population ne soit pas alertée, que les gens se fassent, il y avait eu le plan de contingence qui a fait couler encre et salive, il y avait des exercices. Ça fait couler les fonds sur des séminaires, etc.
Oui, professeur Dadi en a parlé tout à l'heure.
Malheureusement, rien n'est mis en marche. On sait qu'il n'y a rien qui est doté pour l'OVG, le fonctionnement, l'Internet. Et nous pensons qu'il ne faut pas nous faire parler politique, nous faire parler FCC. L'État doit prendre en charge la population. L'État a le devoir de gérer les personnes et leurs biens, surtout de les alerter.
Monsieur Marin, est-ce qu'il y a déjà une assistance, on apporte déjà une assistance aux sinistrés, ceux qui ont perdu peut-être leur maison ou des biens, des valeurs?
Jusque-là,
ou même certains membres de famille.
Il y avait une réunion hier sur la prise en charge, une réunion tenue par le gouverneur militaire avec les représentants des humanitaires, mais aussi l'OVG pour faire l'état des lieux. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont perdu leurs maisons qui ont été calcinées dans le quartier Bouhéné, en territoire de Nyiragongo, là, sur l'unitaire à l'art. Il y a les gens qui ont perdu leurs biens parce que beaucoup de maisons qui n'ont pas été consumées, mais qui étaient proches du quartier Majengo-Norebouhéné, se sont fait visiter par des bandits profitant de l'absence de personnes. Et donc, tous ces gens, nombreux rentrent déjà, ceux qui ont perdu leur maison,
parce
que la nuit à la belle étoile. Les enfants, certains ne sont pas encore retrouvés, mais au fur et à mesure, par des réseaux sociaux, par des chefs de quartier, au niveau de Kécher ou de Mabanga Sud, nous sommes en train de réintégrer les gens. Mais la population a besoin, aujourd'hui et maintenant, d'une assistance, d'abord en abri, une assistance en nourriture, une assistance surtout aussi à l'eau potable, parce que déjà, il y a difficulté d'accès à l'eau. Et donc, nous pensons qu'il est temps que le gouvernement provincial et le gouvernement national, à côté des discours, à côté des grandes délégations, puissent penser à venir au secours à cette population qui vient encore de souffrir, parce qu'il y a même quelques jours, avec la situation où est né les problématiques Kumunande, ils étaient encore en débandade, ils ont fui. Ils ont eu tous ces problèmes, donc il n'y a pas une action concrète.
Il n'y a pas encore eu une action concrète. Oui, Monsieur Marin, est-ce que le courant électrique a été rétabli, parce qu'on a appris que la ligne électrique de la société Sokodé a été coupée?
Ce n'est pas la ligne électrique de la société Sokodé, mais c'est la société Virunga SRL qui ravitaille Sokodé et une autre partie qui l'utilise a même été coupée. Il n'y a pas encore eu
rétablissement de l'électricité.
Il n'y en a pas encore. Aujourd'hui, les gens, pour vivre d'abord, ils vivent de ce qu'on appelle la solidarité entre la population. Quand vous avez vu votre voisin être dans une situation critique de nourriture, d'eau, il y a toujours cette essence de solidarité entre la population.
Bien.
Par rapport à l'énergie électrique, les gens font recours à des petits panneaux, des petites lampes torches, mais aussi à la braise ou aux briquettes fabriquées par le papier pour essayer de conserver l'énergie. Mais il y aura encore forte pression sur la partie qui reste au
au niveau du parc pour ravitailler en bois de chauffage.
Bien, merci Monsieur Marin Gaveau. Je rappelle que vous êtes le président, président de la société civile de Goma. Excellente journée.
Merci beaucoup.
Maître Ruffin, oui. Vous avez suivi le président de la société civile de Goma. Votre réaction.
Tout à fait. Évidemment, évidemment. Non, il a raison. Donc, il n'y a pas eu. Bon, c'est encore tout ça. Un plan de contingence.
C'était la surprise.
Un plan de contingence oui. Avec des déploiements, avec des simulations, avec oui. Beaucoup de moyens, oui. Beaucoup d'enjeux. Mais lorsque le réel arrive, il n'opère pas. Il n'est pas opérationnel. Alors, et il n'y a pas de responsabilité. Vous avez impressionné la population, vous avez montré les biceps, c'est avec un plan...
avec des simulations.
Des simulations de toutes oui. Sortes. Vous avez arrêté la circulation, vous avez fait même survoler des hélicoptères. Mais lorsque l'original arrive, vous disparaissez, vous êtes méconnaissable. On ne voit pas l'armée, on ne voit pas la police, on ne voit rien du tout. Donc, il faut tirer des responsabilités. Et que donc, la population de Goma a beaucoup trop... était meurtri, beaucoup trop souffert. On parle des Bouénés, ça ne fait même pas un mois qu'il y a eu conflit ethnique et qu'il y a décimé des maisons. Et beaucoup de gens sont morts. Et c'est encore Bouéné qui est concerné par le. Par
qui est le plus touché par.
Qui est le plus touché. Qui est le plus touché. Et c'est encore à quelques mètres des Bouénés que la route nationale a été coupée. Donc, il faut une intervention. Kinshasa n'est pas trop présent à Goma. Kinshasa, que ce soit dans son développement, dans son désenclavement, dans tout ce qu'on fait à
Goma,
Faut-il indemniser
tous ceux qui ont perdu les biens.
Mais oui, naturellement. Bon, indemniser, ça, c'est pas le terme, mais peut-être. Oui, évidemment, parce qu'il y a une catastrophe naturelle. L'éruption volcanique, c'est une catastrophe. Mais Goma, si vous devez indemniser tout le monde, c'est sur des milliards, hein, parce que Goma, c'est une ville économique. Et généralement, lorsque les gens perdent, d'abord, ce sont les hommes d'affaires, femmes d'affaires, et les gagnent petits. Donc c'est difficile. D'abord il faut les assister, il faut des facilités pour les assister. Mais Goma depuis longtemps, les Nord Kivu depuis longtemps ou les Kivu en général ne demandent pas beaucoup d'assistance. Ce que Goma demande depuis plus de 20-30 ans, c'est la paix. La paix. Et tu vois, s'il y avait la paix et qu'on n'aurait pas pu voler le matériel d'observation, l'alerte au lieu d'y être donnée, la population se serait déplacée le plus calmement possible sans beaucoup de difficultés parce qu'elle est déjà habituée, elle a déjà été préparée.
Et donc, il y a aussi les tremblements des terres, vous avez suivi.
Les répliques sismiques dont on parle, on parle de presque toutes les 20 minutes, 50 minutes.
15 minutes,
c'est régulier. Bon, je sais que la population n'est pas en mesure et comme il n'y a pas d'observation, je ne sais pas comment on va, sur l'échelle de Richter, comment on va calculer la pression. Parce que Goma est essentiellement construite par des maisons en planche, hein, l'essentiel de la ville, c'est
des. Mais il y a aussi des maisons en étage.
Oui, bon, pas beaucoup comme Kinshasa, la capitale. Mais Goma, il y a quelques maisons en étage, c'est vrai. Le drame, c'est que toute la ville de Goma a été construite sur le volcan. Donc, l'ampleur de ces tremblements de terre frappe directement les maisons. Parce que les immeubles sont construits sur des rochers de volcan. Donc, lorsque c'est le volcan qui fait trembler la ville, tout le monde le sent. Tout le monde le ressent.
Et les laves apparaissent même dans les maisons.
Oui, vous l'avez remarqué dans la plupart des reportages. Donc, il y a eu des fissures dans les parcelles, dans les maisons. Donc, il faut que le gouvernement s'en... Et encore une fois, cette histoire de délégation Cette histoire de délégation, combien de fois la taux dénoncée ici?
Mais il faut aller constater.
Ils vont consommer 50 000 $ pour une intervention de 20 000. Pour une assistance de 20 000 et pour constater, il faut consommer 50 000 de frais d'émission.
Alors,
de
restauration. On est dans une situation d'urgence.
Il y a une situation d'urgence. Il y a des autorités qui peuvent constater là-bas et faire rapport. Nous l'avons toujours dit. Il y a des autorités militaires exceptionnel, ça veut dire par rapport à l'état des siècles, ils peuvent faire rapport. Il y a les Nations Unies qui sont là avec leurs agences représentant le quartier général qui est à Kinshasa ou à Kampala. Ils peuvent faire rapport. Point n'est besoin d'envoyer encore. Il y a une délégation de députés qui a quelques semaines.
Qui sont
les députés, donc les élus de la ville.
Oui.
Ils étaient là-bas. Bon, maintenant qu'il y a catastrophe surprenante, les autorités qui sont là peuvent faire rapport et on envoie
et
les moyens.
Et on envoie les moyens.
Au lieu d'envoyer encore déjà.
Professeur Dadi Salé, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est dans une situation d'urgence, professeur Dadi.
Tout à fait. Je pense qu'on admire déjà la réunion qui, on a encore parlé des plans de contingence du gouvernement, la réunion du 23 mai 2021. Je ne parle pas de l'ancien plan de contingence qui existait. Ce qui fait que ces nouveaux plans de contingence n'ont pas encore été divulgués à ma connaissance, mais nous savons qu'il y a des grandes lignes. On veut des solutions urgentes pour l'évacuation de la ville, lancer des différents services ont été mobilisés. Mais ça, c'est un peu de la sémantique. Sur terrain, vous êtes en train de comprendre avec moi, vous avez été... Parce que quand j'ai parlé, peut-être que quelqu'un ne me comprenait pas. Le président de la société civile vient de confirmer tout ce que j'ai dit. C'est pas, on ne s'est absolument pas contredit dans quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui est sur terrain. Mais pour ne pas injurier la ville de Goma, j'aimerais quand même signaler qu'il y a énormément de maisons en dur. Je m'excuse, je déteste la contradiction, mais apparemment avec Maître, il y a certaines contradictions. Il y a énormément de maisons en dur.
Et... Bon, chacun a son point de vue.
Oui. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Donc, moi, en tant qu'enfant de Goma, si on me dit qu'il n'y a pas de maisons en dur en Goma, parce qu'il y a tremblement de terre, là, j'ai des images où il y a des fissures. Il y en a énormément. Et je vous assure, parmi les grands hôtels...
Des maisons en étage.
En étage, oui, bien sûr. Parmi les meilleurs hôtels au Congo, nous avons des hôtels à Goma. Mieux qu'à Kinshasa, et parfois on fait cette petite discussion, et c'est en dur, je précise, mais c'est vrai qu'à la périphérie, il y a beaucoup de maisons en planche. Là, je suis d'accord, et que c'est dangereux, comme à Bouéné d'ailleurs. C'est là où il y a eu le feu, et il y a eu beaucoup de maisons qui étaient plus en planche qu'en dur, là on précise à Bouéné. Ça, c'est pas Goma, c'est même en Iragongo, c'est même pas Goma, parce qu'on confond parfois un peu tout. Ce sont des précisions, entre guillemets, honnêteté scientifique. Comme je l'ai dit, c'est pas de la politique.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans une situation d'urgence.
Oui. La première chose, comme le président de la société civile l'a si bien dit, il faudra immédiatement, je ne sais même pas pourquoi ça devait attendre une minute, qu'il y ait effectivement l'urgence en termes, les gens qui se sont déplacés, qu'il y ait des sites, parce que s'il n'y a pas de l'ordre, vous me suivez? C'est-à-dire que chacun va agir comme il veut.
Il faut rapidement aménager des sites d'accueil.
Exactement.
Parce qu'il y a des gens qui continuent à dormir dans leur véhicule ou à la Belle Étoile.
Et les gens sont en train de retourner à Goma, là où effectivement le gouverneur n'a pas encore signalé qu'il faut retourner à des endroits dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sites d'accueil, il n'y a pas de l'eau, n'est-ce pas, de l'eau potable, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas le minimum vital d'abord pour calmer la situation. Donc je demande au gouvernement le plus rapidement possible d'installer des sites comme prévu dans le plan de contingent. Je vous ai dit, ces plans existent. Mais maître, là, si bien dit, c'est pas appliqué.
Et on sait même où il faut mettre ces sites d'accueil.
Je vous dis, on sait où il faut mettre ces sites, ça a été calculé. Et je pense que vous avez raté peut-être les responsables de l'OVG. L'OVG, n'est-ce pas? Il pouvait bien vous le préciser, mais je vous précise que les sites étaient identifiés. Un grand travail avait été effectué, et vous avez bien compris que le président de la société civile, que j'admire beaucoup, l'a si bien dit. C'est un peu comme si c'était un travail bafoué, qui ne servait à rien. Parce que l'application, et je soutiens maître, on n'est pas seulement en contradiction, je soutiens maître, un grand travail, je blague un peu, c'est ma façon, okay, ça va. Donc un grand travail qui a été effectué presque pour rien. Parce qu'en réalité, ici, rien ne se fait. Donc, c'est d'abord le minimum, avant de penser au moyen terme. Là, c'est les courts termes. Immédiatement, s'occuper des gens, la nourriture, de l'eau et d'abri. Aussi simple que ça. Deuxièmement, continuer à communiquer. Parce que là, on sait qu'il y a des fissures. Il y a une sorte de fissure vers l'aéroport. Et le gouverneur a averti. Il y a risque. Mais il y a aussi des fissures au niveau de la on appelle chez Modé, Signers. Il y a au moins 3 fissures qui inquiètent. Ça va? Donc, il faudra que les scientifiques... J'aimerais quand même aussi préciser, je vous ai dit, je suis scientifique. D'abord, avant toute chose.
Il n'y a pas de problème, professeur.
Oui, scientifiquement, l'OVG existe. Ça a des défaillances, mais pour l'instant, l'OVG est en train de travailler.
Sans moyens, sans matériel.
Non, il y a le minimum, s'il vous plaît. Quand on dit,
face au défi.
Exact. Face au défi, c'est presque rien.
C'est presque
mais
rien.
Il y a encore des capteurs qui fonctionnent. Il y a encore quelques endroits où ils essayent. C'est juste que c'est nul, mais le
professeur, on termine déjà l'émission. Merci beaucoup. Oui. Maître Ruffin, votre dernier mot.
Bon, on va clôturer. Tu vois, l'émission est pédagogique. L'émission n'est pas polémique. C'est pourquoi nous n'avons pas. L'émission n'est pas volcanophobe. L'émission n'est pas rwandophobe. L'émission, c'est mission de la paix.
Oui.
Et vous voyez donc, je n'ai pas voulu raconter les contradicteurs. Donc, nous demandons à la population à la gouvernement d'abord d'assister le la population, surtout oui. Les gouverneurs militaires,
oui.
de déclencher maintenant tardivement, mais le retour de la population nécessite une prise en charge. Et c'est une situation difficile.
Merci
maintenant
beaucoup.
Qu'il y a des répliques sismiques.
On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Merci, maître Ruffin Louko. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.